sauf catastrophe. Mais il m'a demandé donc de le suppléer et nous vous remercions pour votre présence, monsieur le professeur. Et je suis entourée de du rapporteur que vous connaissez, notre collègue Vincent Delahaye.
On a eu l'occasion de se rencontrer.
Donc, je vois que nous sommes les deux seuls sénateurs.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Donc, nous poursuivons nos travaux de notre commission d'enquête, monsieur le professeur, avec votre audition aujourd'hui. Vous êtes professeur à Mines, Paris, Sciences et Lettres. Avant que vous ne parliez, nous avons un exercice contraint dans notre commission d'enquête. L'obligation pour vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, je vous rappelle, pardon, c'est pas très agréable pour le président ou la présidente que je suis cet après-midi, mais je vous rappelle qu'un faux témoignage de votre part devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 430-13, 434-13 et 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 années d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pardon, mais c'est une obligation que de vous le rappeler. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Alors, quelques mots, monsieur le professeur, pour vous présenter notre commission. Le Sénat a constitué le 18 janvier dernier cette commission d'enquête intitulée « La production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050 ». Nous centrons nos travaux sur, bien sûr, le présent, mais également l'avenir du système électrique. Est-il en capacité de faire face à la demande, d'offrir aux particuliers et à nos entreprises une électricité à un prix raisonnable? Quelles sont ses perspectives de développement? Monsieur Jankovici, votre notoriété n'est plus à démontrer. Mon collègue me disait, il est bien plus connu que nous. Pour ma part, j'en suis certaine. Vous avez su imposer un certain nombre de thèmes dans le débat public et vous avez su populariser de nombreux enjeux en lien avec la décarbonation. Nous souhaiterions que vous puissiez nous faire part de votre vision sur l'avenir de l'électrification et en premier lieu de l'évolution potentielle de la consommation d'électricité qui aujourd'hui semble bien patiner un peu. Les questions de sobriété, d'effacement des consommations nous intéressent et nous serions heureux de vous entendre sur les meilleurs moyens à utiliser. Vous pourriez nous exposer votre point de vue sur les différents vecteurs d'électrification, le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, etc. S'agissant du nucléaire, pour lequel vous avez pris position, en raison notamment de sa forte intensité de décarbonation, vous pourriez nous dire ce que vous pensez de la relance actuelle de la France avec le programme des EPR2, mais aussi nous faire part de votre analyse sur les réacteurs à neutrons rapides pour l'instant négligés par la France, mais qui peuvent devenir indispensables face à un risque de raréfaction de l'uranium naturel et de tensions géopolitiques sur cette ressource. Voilà les grands thèmes sur lesquels notre rapporteur Vincent Delahaye et nos collègues, quand ils arriveront, s'ils doivent arriver, voilà donc les thématiques sur lesquelles vous serez interrogé. Nous vous proposons de dérouler cette audition de la façon suivante. Vous présenterez votre travail et vos réflexions en 10 minutes maximum. Bon, s'il y en a 12, soyez rassurés, je ne vous couperai pas la parole. Dans 10 minutes maximum de présentation liminaire de votre travail et de vos réflexions sur ces différents sujets. Ensuite, eh bien, il y aura un temps de questions-réponses et notre rapporteur, je le sais, aura de nombreuses questions également. Voilà. Si vous voulez bien, monsieur le professeur, je vous donne la parole. Merci.
Alors, comme je ne sais pas exactement quels sont les angles qui vous intéressent plus particulièrement, les propos liminaires sont probablement raisonnablement courts. Je vais me limiter à quelques-uns. Le premier, c'est que l'électricité aujourd'hui est devenue quelque chose qui est totalement indispensable au fonctionnement d'un pays ordinaire, j'ai envie de dire, ou en tout cas d'un pays européen. Pour vous donner simplement l'exercice de pensée, de savoir ce que deviendrait le Sénat si on devait définitivement vous supprimer l'accès à l'électricité, je pense que vos travaux s'en trouveraient singulièrement compliqués. Et en fait, cet exercice de pensée peut être fait par absolument n'importe qui, n'importe où. Aujourd'hui, s'il y a une suppression durable de l'approvisionnement électrique, le fonctionnement du monde, c'est extrêmement perturbé, et ça vaut également en ce qui concerne, par exemple, la conservation des aliments, parce que ça veut dire plus de chaîne du froid, plus d'électricité veut également dire, dans le monde moderne, plus de système monétaire, puisque l'argent aujourd'hui, c'est des ordinateurs. Donc aujourd'hui, l'électricité est devenue quelque chose de totalement indispensable au maintien, j'ai envie de dire, des fonctions qu'on peut qualifier d'essentielles dans un pays industrialisé. Pour autant, ça ne représente que 20% de la consommation d'énergie dite finale. Alors, dans le jargon des énergéticiens, il y a deux notions qu'on entend souvent, l'énergie primaire et l'énergie finale. L'énergie primaire, au sens de première, c'est celle qu'on préserve dans l'environnement. Donc, c'est du charbon, du pétrole, du gaz, de l'eau qui tombe, de l'air en mouvement, etc., du rayonnement solaire, de la biomasse. Et l'énergie finale, c'est celle qui sort sous forme de vecteur énergétique du système énergétique, et c'est celle qu'on donne à manger à nos machines. Donc c'est celle qui est consommée, entre guillemets, par une voiture, un avion, une cafetière, un train ou une presse à emboutir. L'énergie finale, elle est constituée dans notre pays, comme dans beaucoup de pays occidentaux, pour 20% à peu près d'électricité. Et pour 80% d'autres choses, essentiellement des produits raffinés issus du pétrole, du gaz, raffiné lui-même, puisqu'on ne l'utilise pas tel qu'il sort des gisements de gaz, des combustibles solides, divers et variés, ils peuvent provenir du charbon, ils peuvent provenir de la biomasse. Voilà. Donc l'électricité, qui est un vecteur indispensable, enfin indispensable au sens où sans lui, le fonctionnement du monde est profondément bouleversé, du monde occidental, est quelque chose qui, pour autant, en termes d'approvisionnement énergétique global, dans un pays comme la France, ne pèse que 20% de ce qui est utilisé par les machines. Cette électricité, quand on regarde la façon dont elle est produite dans le monde, elle est à peu près à 60% avec des combustibles fossiles. C'est-à-dire que la production électrique relève avant tout dans le monde de grosses machines à vapeur. On bouillir de l'eau avec du charbon ou du gaz. On fait des grandes quantités de vapeur et avec ça, on fait tourner des turbines. Vous avez à peu près 15%.
Pardon, excusez-moi, monsieur le professeur, nous accueillons le président. Non. Je cède ma place au président.
Il faut prendre le train.
C'est normal. Viens, président. Viens.
En plus, on peut travailler dans le train.
Je t'ai juste supplié dans les propos introductifs. Mais pas remplacé, supplié.
Voilà.
Allez-y, monsieur.
Avantageusement.
Et donc quand on regarde, je disais, la façon dont on produit l'électricité dans le monde, 60% vient des combustibles fossiles, en gros, hein, essentiellement du charbon et du gaz. Le charbon fait actuellement 35%, d'ordre de grandeur, le gaz 25%. L'hydroélectricité fait à peu près 15%. Le nucléaire fait à peu près 10%. Il a baissé en part relative ces dernières années. Et les énergies renouvelables nouvelles, vent et soleil, font le reste. La situation française est donc une situation singulière au regard de la situation mondiale ordinaire, j'ai envie de dire, puisque chez nous, le nucléaire occupe une place dominante. Place du nucléaire doit essentiellement au fait que la France n'avait pas de charbon au moment des chocs pétroliers. Et donc, si on avait du charbon, on aurait utilisé notre charbon. Et comme on n'avait pas de charbon, on a fait du nucléaire. La vertu climatique française actuelle ne doit donc, qui est une excellente chose, ne doit donc pas grand-chose à la clairvoyance climatique. C'est essentiellement un fait du hasard et un fait qu'il n'y avait plus de charbon en France au moment où le choc pétrolier est arrivé. Donc voilà en gros la manière dont se présente la situation dans le monde et la façon dont la situation se présente en France. Puisqu'on va parler de prix, une remarque liminaire sur le prix. Compte tenu du service qu'elle nous rend, l'électricité est gratuite, quel que soit son prix, en première approximation. Il faut bien comprendre que nous sommes devenus tellement dépendants et l'électricité nous rend de tels services qu'en fait elle vaudrait 10 fois plus cher, que ce serait toujours gratuit, compte tenu de l'avantage que ça procure par rapport au fait de ne pas avoir d'électricité du tout. Encore une fois, sans électricité, il n'y a plus de système monétaire, il n'y a plus de communication, il n'y a plus. Enfin bon, bref, tout un tas de trucs qui s'en vont. Et ces choses-là valent le prix qu'on a décidé que ça valait. Et en fait, on est très sensible à la hausse du prix de l'électricité, comme le drogué est très sensible à la hausse du prix de la drogue, mais ce n'est pas parce que ça se met à devenir. C'est pas parce que le prix devient exorbitant en tant que tel, c'est simplement parce qu'on est habitué à un prix faible, ou encore plus faible, ou encore plus ridicule que celui qu'il est habituellement. Mais il faut bien insister sur le fait que compte tenu du service qu'elle nous rend, l'énergie en général, l'électricité en particulier, ne vaut quasiment rien. Voilà, je vais m'arrêter pour ces propos liminaires, et puis maintenant répondre à vos questions.
Monsieur le rapporteur.
Merci Monsieur Jancovici. Vous avez fait moins que 10 minutes, c'est parfait. Et alors c'est vrai que notre commission elle a vocation à se tourner vers l'avenir. Donc en fait l'idée c'est de dire que progressivement on va essayer d'augmenter la part de l'électricité dans notre consommation d'énergie pour essayer d'avoir une consommation plus décarbonée, quoi, une énergie plus décarbonée globalement. L'électricité peut nous aider beaucoup. Donc il y a une volonté d'électrifier beaucoup de nos usages encore, hein, parce que on est déjà très dépendant de l'électricité, mais on devrait le devenir de plus en plus. Et donc, on essaye de déterminer la vitesse de l'impact de cette électrification. On a une augmentation de la consommation d'électricité qui devrait venir. Pour l'instant, on a plutôt une stagnation, voire un déclin ces dernières années. Il y a eu de gros efforts de sobriété et on a plutôt un peu décliné. Donc, on se pose la question de savoir à quel moment la courbe va s'inverser. Donc, peut-être vous avez une idée sur ce sujet-là. Ensuite, on se dit que si on électrifie beaucoup, qu'on consomme beaucoup plus d'électricité, est-ce qu'on est capable de produire suffisamment d'électricité ? Donc c'était la deuxième question que l'on se pose et que notre commission se pose. Et entre là-dedans la relance notamment de la production nucléaire, qui venait sans doute d'une carence en charbon au moment du premier choc pétrolier en 1974, mais qui depuis a poursuivi son petit chemin. Donc on aimerait vous entendre sur le changement de pied un peu parce qu'on a eu quand même le nucléaire honteux pendant une trentaine d'années et on a l'impression que l'image du nucléaire a quand même bien changé. Est-ce que les dispositions qui ont été annoncées par le président de la République vous semblent suffisantes, c'est-à-dire la construction de 6 EPR2 et de 8 autres éventuellement, donc ce qui ferait 14 d'ici 2050. Comment vous voyez l'avenir du nucléaire ? Est-ce que vous pensez d'abord qu'on a, depuis 2 ans, on a pris la bonne direction ? Qu'est-ce que vous pensez effectivement de la quatrième génération ? Ça a été abordé par Madame la Présidente tout à l'heure, les RNR. Voilà, comment vous voyez la France dans ce redéploiement du nucléaire ? Et puis, peut-être nous dire un tout petit mot sur l'hydrogène, hein, même si on n'a pas beaucoup abordé le sujet avec notre commission d'enquête, mais qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène ? Beaucoup pensent que c'est une solution miracle. Est-ce que c'est aussi votre cas ou Et puis, consommation, production, et puis les prix. Alors, c'est gratuit, donc si on vous écoute, effectivement, on a rien à faire. En même temps, on a le sentiment, notamment ces 2 dernières années, que les prix ont évolué quand même de façon très importante, avec notamment le prix du gaz, le coût marginal, qui a fait que pour nos compatriotes, le prix, quoi, ils n'ont pas le sentiment que le prix soit gratuit, c'est devenu un petit peu un symbole de pouvoir d'achat. Donc même si effectivement quand on le compare à son utilité, sans doute qu'on peut considérer que le prix est faible par rapport à l'utilité du produit. Mais voilà, est-ce que vous pensez que c'est peut-être un non-sujet, quoi, je ne sais pas, peut-être nous redévelopper un tout petit peu ça. Nous, on a la volonté en tout cas d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de volatilité dans les prix. Et un petit peu plus de lien entre le prix et le coût de production. Donc on essaye de regarder ce qui pourrait faire en sorte qu'avec ce lien entre le prix et le coût de production, on ait un prix qui soit un petit peu plus stable, parce que les coûts de production sont quand même relativement stables, même s'ils ont tendance à augmenter un petit peu, à la fois dans le renouvelable, même si on a fait il y a une baisse de prix dans la production du renouvelable. Et puis dans le nucléaire, il y aura sans doute un peu une hausse de prix parce que les EPR vaudront sans doute un peu plus cher que les centrales classiques. Voilà un petit peu. Donc je vous reposerai peut-être quelques questions. Je vous interromperai peut-être. Mais si vous pouvez nous repartir un petit peu sur ces éléments-là, ça nous éclairerait.
Monsieur Jankovic.
Alors j'espère ne pas avoir raté de marche parce que vous avez posé 5 ou 6 questions l'une derrière l'autre. Donc vous avez une question sur est-ce que la consommation d'électricité va monter ou descendre. Vous avez posé une question, j'essaie de voir, sur est-ce qu'on va être capable de produire cette électricité. Vous avez posé une question sur quid de la relance du nucléaire. Vous avez posé une question sur la quatrième génération. Et la dernière question était sur les prix et les coûts, et j'ai peur d'en avoir perdu une, l'avant-dernière, non ? C'est bon ?
Non, c'était bon alors. Parce que là, il y a l'hydrogène.
Ah, et l'hydrogène, voilà. Ouais. Je vais commencer par l'hydrogène, c'est la plus facile. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux types d'énergie dans un système énergétique, l'énergie primaire et l'énergie finale. L'hydrogène est une énergie finale. Donc en tant que telle, elle ne résout pas les problèmes d'énergie primaire. C'est un vecteur énergétique qui est concurrent du vecteur électrique. Et en fait, quand on regarde bien ce qu'on peut en faire et ne pas en faire, partout où l'hydrogène est en compétition avec l'électricité, c'est un vecteur énergétique qui a un moins bon rendement que l'électricité. En particulier dans les transports, son rendement est 4 fois plus faible, puisque si vous faites de l'hydrogène avec de l'électricité, en général c'est comme ça qu'on entend le faire, vous partez l'électricité pour faire l'hydrogène, vous perdez 30 à 40% au moment de l'électrolyse, vous perdez 20% au moment de la logistique, c'est-à-dire du compression, stockage, etc. Et vous reperdez la moitié dans la pile à combustible du véhicule pour refaire de l'électricité qui va aux roues. Donc en gros, vous avez perdu les 3/4 de l'énergie en chemin par rapport à un système où vous auriez directement utilisé l'électricité pour la mettre dans les roues. Donc personnellement, moi l'hydrogène dans les transports, je ne vois pas l'intérêt. Le seul intérêt de l'hydrogène, il est comme molécule chimique dans l'industrie pour faire de la réduction du minerai de fer ou de la fabrication d'engrais, c'est la fabrication d'ammoniac. Donc il est comme matière première, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant, c'est intéressant. Mais comme vecteur énergétique, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et alors quant à l'aviation, une blague que je fais souvent est de dire l'avion à hydrogène, ça existe déjà, ça s'appelle la fusée Ariane, c'est pas le même prix et c'est pas le même coût, et je veux bien parier toutes mes économies avec qui veut que je mourrais sans avoir vu d'aviation commerciale à hydrogène. Voilà, on fera 3 gadgets éventuellement à l'hydrogène, mais ça ira pas plus loin. C'est vraiment pas fait pour ça.
Vous n'êtes pas un pro-hydrogène.
C'est pas que je suis pas un pro-hydrogène, je suis ni pro ni anti, je vous dis que j'y crois pas. Je suis prêt à parier mes économies sur le fait que ça n'adviendra pas. L'hydrogène est un matériau qui a une très forte densité par unité de poids, c'est pour ça qu'on l'utilise dans le spatial, où le but du jeu d'un lanceur, c'est de s'arracher à la gravitation terrestre. Par contre, il a une très très mauvaise densité énergétique par unité de volume. Ce qui veut dire que pour un avion qui est essentiellement un réservoir de kérosène volant, avec accessoirement 3 passagers, je plaisante un peu, mais avec l'hydrogène, vous aurez vraiment un énorme réservoir volant avec accessoirement 3 passagers. Donc ça sera un coût totalement prohibitif. En plus, la manutention de l'hydrogène liquide, je vous rappelle que l'hydrogène est liquide à quelques degrés Kelvin, donc c'est une température extrêmement basse. C'est des problèmes qui sont très très complexes de manutention, etc. Bref, vous avez, ne serait-ce que d'arrêter et de faire redémarrer un moteur à hydrogène, c'est très compliqué. Enfin bon, bref. Donc vous avez les problèmes sont insurmontables. Du reste, les avionneurs eux-mêmes disent que des avions longs et moyens courriers, long courrier, il faut pas y compter avec l'hydrogène. L'hydrogène, ça fait rêver quelques personnes ici et là qui pensent que la vie sans avion sera un drame absolu. Mais à part ça, j'y crois pas du tout.
C'est évoqué, l'hydrogène est évoqué un peu pour stocker de l'électricité, en fait.
Ça a un rendement, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Pour stocker de l'électricité, ça veut dire que vous divisez par 4 la quantité d'énergie entre l'électricité initiale et l'électricité restituée en sortie de stockage. Donc c'est un très très mauvais rendement. Alors on revient à la première question, qui est-ce que la consommation d'électricité va augmenter ou baisser? Eh bien la réponse est que je n'en sais rien. Quand vous regardez dans les séries passées, vous vous rendez compte que, historiquement, la corrélation entre la consommation électrique mondiale et le PIB mondial est une droite parfaite. Alors, vous pouvez vous dire, du coup, on consomme autant d'électricité que l'économie est grosse, ou vous pouvez vous dire, l'économie est aussi grosse que la quantité d'électricité disponible. On peut voir les choses dans les deux sens. Mais si on la voit dans le premier sens, ça veut dire que si vous avez un autre facteur limitant que l'électricité qui s'applique au système économique, par exemple le pétrole, par exemple des minerais, par exemple n'importe quoi, à ce moment, l'économie ne grossit pas vite ou diminue et la quantité d'électricité consommée ne grossit pas vite ou diminue. Donc quand vous regardez l'économie sous forme d'un système physique de transformation, parce que c'est ce que c'est, si l'électricité est le seul facteur limitant, à ce moment, l'économie peut grossir à mesure qu'on a plus d'électricité à produire. Si l'électricité n'est pas le premier facteur limitant, à ce moment, l'économie peut être limitée pour une autre raison. Et je pense pour ma part que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe, que l'économie est limitée pour une raison d'approvisionnement en hydrocarbures qui est limitée pour des raisons géologiques, il n'y en a plus assez pour approvisionner l'Europe en quantité croissante. Et donc, du coup, l'activité européenne, l'activité économique européenne, l'activité physique, en fait, ne croît plus. Moi, mon indicateur pour regarder l'activité économique sous l'angle physique, c'est les tonnes chargées dans les camions. Donc, ce n'est pas le PIB, parce que le PIB, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. Il suffit de changer la convention. Dans une économie où vous avez 70% de services, vous savez, la correction de l'inflation, on pourrait en discuter toute la nuit, qu'on ne serait toujours pas d'accord sur la méthode à adopter. Donc, parce que quand l'honoraire de l'avocat ou l'honoraire du médecin augmente de 20% d'une année sur l'autre, savoir si c'est de l'inflation ou l'augmentation de valeur. Donc, pour en venir à ce que je disais, par contre, le PIB physique, c'est-à-dire les objets et les services matériels, ça a un bon proxy, c'est les tonnes chargées dans les camions. Et cet indicateur-là, il baisse depuis 2007 en tendance. Et un autre proxy intéressant, c'est les mètres carrés construits dans l'année. Et ça baisse en tendance depuis 2007. D'accord ? Donc, et 2007 n'est pas un hasard. Pour ma part, ce qui se passe en Europe, c'est que pour une raison de...
Vous dites 2007, c'est pas un hasard, c'est parce que...
Parce que le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, c'était 2006. Et depuis 2007, l'approvisionnement européen est contraint à la baisse pour des raisons géologiques. Sur le pétrole, à cause du pic de conventionnel, parce que le shale oil a surtout réapprovisionné les États-Unis. Sur le gaz, parce que le pic de production de la mer du Nord était en 2005 et que le gaz est une énergie régionale, nonobstant le GNL qui se développe en ce moment. Et donc, à partir du moment où régionalement l'offre se met à baisser fortement, la consommation baisse. Et la consommation de gaz s'est inversée, elle croissait, elle s'est mise à décroître. Et l'inversion est datée pile de 2005. Et c'est pas une politique climatique qui a fait ça. C'est juste qu'il y en avait de plus en plus, puis il y en a de moins en moins, quoi. Et en ce qui concerne le charbon, l'approvisionnement européen en charbon décline depuis les années 50, tout simplement parce que l'Europe a commencé à taper dans son charbon il y a plusieurs siècles. Le pic de production en Grande-Bretagne, c'était 1913 sur le charbon. Et donc, depuis le milieu des années 50, la production décline en Europe. Et comme le charbon est un pondéreux solide, le commerce international n'est pas simple. En gros, il faut avoir des mines en Bordeaux et des centrales électriques en Bordeaux, pour dire les choses rapidement, ou des hauts fourneaux en Bordeaux. Et donc, quand la production dans un pays commence à décliner de manière significative, en général, sa consommation se met à décliner également, sauf petits pays très bien connectés par voie d'eau. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, la consommation de charbon en Europe s'est mise à décliner depuis le milieu des années 50, à une époque où le climat n'était absolument pas un sujet. Donc, le charbon décline, le gaz décline, le pétrole décline, pour des raisons d'approvisionnement. Le nucléaire a décliné pour des raisons là de politique intérieure, ça, c'était pas des problèmes d'approvisionnement. L'hydroélectricité n'augmente pas pour des raisons climatiques. Parce que les précipitations n'augmentent pas, et même diminuent un peu dans le sud de l'Europe. Et donc ça fait des décennies que l'hydroélectricité est constante en approvisionnement, et le développement des nouvelles énergies renouvelables ne vient pas compenser le déclin des sources historiques. Donc l'approvisionnement européen s'est mis à décliner depuis 2007, et quand vous regardez les indicateurs physiques de l'économie en Europe, ça décline depuis 2007. Donc dans la vision que j'ai, l'économie est limitée, là en l'occurrence, par son approvisionnement en hydrocarbures, et du coup, comme l'économie est limitée par un facteur physique, elle ne consomme pas plus d'électricité, mais plutôt moins, à structure de consommation identique, c'est-à-dire sans électrification des transports, sans électrification du logement, etc., enfin du chauffage, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Ben, à l'avenir, vous avez deux chevaux qui se font la course. Vous avez un cheval qui est la taille de l'économie, et personnellement, je ne vois pas de raison majeure pour laquelle l'économie physique repartirait à la hausse en Europe. Je n'en vois pas. Donc ça veut dire que l'économie va continuer à gentiment s'éroder, l'économie physique, en Europe. Et un deuxième cheval qui est la vitesse à laquelle on convertit à l'électricité des usages qui aujourd'hui ne sont pas électrifiés. Et je ne sais pas lequel des deux va gagner. Donc si c'est le cheval de l'électrification qui gagne, l'électricité repart à la hausse. Si c'est le cheval de l'économie dans son ensemble qui gagne, l'électricité repart pas à la hausse. Et je ne sais pas vous dire. Voilà. Je sais vous dire ce qu'il faut tenter de faire, ou les contraires qu'il faut essayer de marier. Par contre, je ne sais pas vous dire ce qui va vraiment se passer. Voilà. Contrairement à l'avion à hydrogène, où là, je sais vous dire à peu près ce qui va se passer, c'est qu'on n'en fera pas beaucoup, et absolument pas à l'échelle de l'aviation commerciale d'aujourd'hui. Alors après, est-ce que cette électricité, si on voulait en consommer plus, on saura la produire ? Eh bien, c'est une excellente question, parce que dans les modes de production électrique que nous avons à disposition en Europe aujourd'hui, on ne produit plus d'électricité avec du pétrole, sauf de manière marginale. On produit encore pas mal d'électricité avec du gaz, mais les événements récents nous ont montré que pour avoir de l'électricité au gaz, il faut qu'il y ait du gaz. Du reste, devant vos collègues, lors d'une commission d'enquête qui a eu lieu, sauf erreur de ma part, en 2012, dans cette même assemblée, j'avais rappelé que les renouvelables non pilotables allaient avec des centrales à gaz, que les centrales à gaz, pour les opérer, fallait avoir du gaz, qu'une partie du gaz venait des Russes, et que les Russes, bah, c'était les Russes, et que de temps en temps, ils pouvaient faire des choses un peu imprévisibles. Ça, c'était 2012. Voilà. Puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il ne fallait pas être grand clair, en fait. Hein. Il fallait juste avoir un peu regardé la situation. Donc, est-ce qu'à l'avenir, on va pouvoir faire de plus en plus d'électricité avec du gaz, quand bien même on se ficherait des politiques climatiques ? C'est pas sûr, parce que, encore une fois, le gaz n'est pas quelque chose qui se transporte si facilement que ça sur très longue distance. Un train de liquéfaction, c'est long à construire. Les terminaux de regazéification, il faut pouvoir en installer. Voilà, donc ça, on peut en faire un peu, mais on ne va pas en faire de façon considérable. On peut en faire avec du biogaz, c'est ce que font les Allemands. Les Allemands ont mis des méthaniseurs absolument partout, histoire de faire une partie de leur électricité au biogaz. Et ce qu'ils font en Allemagne au biogaz, sauf erreur de ma part, c'est du même ordre que ce qu'ils font au solaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important chez eux. On en parle très peu en France, mais bon. Mais ils ont mis pour ça 1 million d'hectares en culture, avec du maïs fourrage partout, qui servent à nourrir les méthaniseurs et pas à nourrir les animaux. On peut en faire avec du nucléaire, donc c'est ce qu'on fait. On peut en faire avec du charbon. Les Allemands ont encore des mines, des centrales à lignite, les Polonais aussi. Ailleurs en Europe, c'est plutôt une énergie en déclin, tout simplement parce qu'on l'importe. Comme on l'importe, on en utilise globalement de moins en moins. Et enfin, on peut en faire avec du solaire et de l'éolien. Alors, si je prends les modes purement décarbonés, donc d'un côté, j'ai les énergies renouvelables, et j'ai évidemment l'hydraulique que j'ai oublié. Et de l'autre côté, le ou les nucléaires, plus exactement. Alors, sur les énergies renouvelables, vous avez deux catégories, les énergies renouvelables pilotables et celles qui ne le sont pas. Dans les pilotables, vous avez le biogaz et vous avez l'hydraulique. Dans le non pilotable, vous avez l'éolien et le solaire. Le pilotable ne pose pas de problème d'intégration dans le réseau, puisque c'est une électricité, j'ai envie de dire, ordinaire. Vous la produisez à la demande, notamment l'hydroélectricité, qui est une électricité extrêmement précieuse. Et vous pouvez du coup alimenter un réseau en totalité avec des barrages, si vous avez assez de barrages, ce que fait la Norvège, 4 millions d'habitants, un pays qui est grand comme la moitié de la France, avec plein de montagnes, pose aucun problème. Et les Norvégiens consomment plus de 2 fois plus d'électricité par personne que les Français, et ça ne pose aucun problème d'alimenter tout ça avec des barrages, et vous avez un réseau parfaitement flexible. Les Suédois ont également une très grande part d'hydroélectricité, toujours pareil, 350 000 km², 10 millions d'habitants, c'est facile. Et la Finlande a encore un gros paquet d'hydroélectricité. Et les Autrichiens, tout ça, c'est des pays qui sont faiblement peuplés en rapport de la quantité de montagnes qu'ils possèdent. Et donc, vous pouvez avoir une grosse partie d'hydroélectricité. En France, on est au taquet, en gros, hein, on ne peut pas équiper beaucoup plus de sites. En hydroélectricité pure, après on pourrait faire des stations de pompage en remontant l'eau du Léman et en noyant toutes les vallées qui sont au-dessus. Ça, c'est techniquement possible, à condition de se mettre d'accord avec les Suisses. Mais par contre, de l'hydroélectricité en provenance des eaux pluviales ou de la neige, ça, on est à peu près au taquet. On peut en rajouter un peu, mais pas beaucoup. Donc vous avez les énergies renouvelables, enfin l'électricité renouvelable pilotable. Vous avez derrière après l'électricité renouvelable non pilotable, donc éolien et solaire. Et celle-là, vous avez deux cas de figure. Ou bien vous en produisez essentiellement quand vous avez besoin de vous en servir. Il y a des cas de figure où c'est comme ça. Par exemple, la climatisation et le solaire, ça va bien ensemble. Parce qu'en général, vous avez besoin de climatiser quand il fait très chaud. Vous y faites très chaud quand il y a plein de soleil. Et quand il y a plein de soleil, il y a plein d'électricité solaire. D'accord ? Donc là, vous avez des usages qui se correspondent assez bien. Quand vous avez des voitures électriques et que vous avez la possibilité de les recharger au pic solaire, ce qui n'est pas tellement le cas aujourd'hui parce qu'on les recharge plutôt la nuit, on pourrait le faire, à ce moment, vous avez aussi des usages qui se correspondent assez bien, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, quand vous avez des usages qui sont loin dans le temps du moment où la production arrive, à ce moment, ça se met à poser problème. Et en particulier, un des trucs qui aujourd'hui pose problème, alors il y a deux choses qui commencent à poser problème aujourd'hui, c'est que maintenant, le parc solaire installé en Europe commence à être suffisamment important pour que certains jours, la puissance solaire injectée sur le réseau dépasse les usages plus les capacités de stockage. Et à ce moment, vous êtes obligé d'écréter la production solaire. Donc en fait, il y a une partie de la production solaire que vous n'injectez pas sur le réseau parce que vous ne sauriez pas quoi en faire. Et ça vient encore après les prix négatifs. Déjà, au début, vous avez les prix négatifs, puis ensuite, vous avez ce genre de choses. Et vous avez également les décalages dans le temps à quelques mois qui peuvent poser problème. Vous savez qu'actuellement, la consommation d'électricité en France, elle est plutôt maximale l'hiver. Ce n'est pas vrai dans tous les pays. Hein. Vous avez plein de pays où les climatiseurs sont importants et où c'est l'été. Au Japon, par exemple, c'est l'été que vous avez le pic de consommation électrique, très loin devant le pic hivernal. Bon, en France, pour le moment, on n'est pas encore dans cette situation. Donc, vous avez un décalage dans le temps. Et donc, si vous avez une production électrique qui est plus importante l'été que l'hiver et une consommation qui est plus importante l'hiver que l'été, vous avez un problème de stockage intersaisonnier. Et alors celui-là, il est très difficile à assurer parce que ça excède les durées typiques de stockage dans les stations de pompage. Vous êtes plutôt sur une durée de stockage qui est de l'ordre de la journée à la semaine. Ça excède les batteries. Vous êtes sur des durées de stockage qui sont aussi du même ordre. Et aujourd'hui, ça, c'est le sujet sur lequel il y a des incertitudes dans des systèmes où il y aurait des fortes pénétrations d'éolien et de solaire. Du côté du nucléaire, alors juste pour finir, sur les énergies renouvelables, nouvelles, éolien et solaire, ce qui va vite, c'est de construire une éolienne ou un panneau solaire, enfin, ou un champ solaire. Ce qui est compliqué, c'est de faire le réseau complet. Donc les Allemands ont commencé il y a 20 ans, ils y sont toujours pas. Hein. Donc faire une installation, c'est simple et rapide. D'accord ? Faire le réseau dans son ensemble, c'est compliqué. Avec le nucléaire, vous êtes dans l'équation exactement inverse. Faire une centrale, c'est compliqué. Faire fonctionner le réseau, c'est simple. En gros, vous êtes dans des situations opposées, on va dire. Alors le nucléaire, ou les nucléaires plus exactement, vous en avez de deux types. Vous avez le nucléaire à fission et le nucléaire à fusion. Le nucléaire à fission part d'une réalité physique qui est que quand vous cassez en deux un très gros noyau, à l'arrivée, vous avez des sous-ensembles plus stables que le noyau de départ, et donc au passage, vous avez récupéré de l'énergie. La fusion, c'est l'inverse. Quand vous agrégez des petits noyaux, vous arrivez à un noyau plus gros qui est plus stable, et donc c'est pareil, au passage, vous avez récupéré de l'énergie. La fusion, vos enfants seront morts, qu'on n'en verra toujours pas la couleur industrielle, donc on peut laisser ça de côté. Parce que on est encore à un siècle d'avoir quelque chose d'opérationnel. Oui, ITER n'est pas du tout un réacteur électrogène. ITER a comme objet de faire une réaction de fusion qui va durer quelques minutes et qui a pour objet de libérer un peu plus d'énergie que l'énergie qui a été utilisée pour chauffer la matière à quelques dizaines de millions de degrés, ce qui est nécessaire pour que les particules chargées positivement, que sont les noyaux d'hydrogène, aillent suffisamment vite pour se rentrer dedans et fusionner en arrivant à vaincre la répulsion électrostatique
du fait que deux particules chargées positivement, quand vous les rapprochez, elles ont tendance à se rééloigner. D'accord ? Donc ITER doit vaincre avec l'énergie cinétique des noyaux cette énergie de répulsion électrostatique. Et pour ça, il faut que les noyaux aillent très très vite, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une agitation thermique extrêmement élevée. Et pour ça, il faut que la matière soit portée à des dizaines de millions de degrés sous forme de plasma. Et pour ça, il faut évidemment utiliser plein d'énergie. Donc en fait, vous avez besoin d'un petit réacteur nucléaire classique pour injecter l'électricité qui est nécessaire au démarrage d'ITER. Et ensuite, ITER fait des réactions de fusion pendant quelques minutes. Ça, c'est très très loin d'un réacteur électrogène à fusion qui doit durer des milliers d'heures, parce que vous n'entendez pas avoir la lumière quelques minutes dans cette salle. Donc ça doit être stable sur des milliers d'heures. Et par ailleurs, vous devez avoir un dispositif qui convertit l'énergie de la fusion en électricité. Cette énergie de fusion, vous la récupérez essentiellement sous forme de neutrons de très haute énergie. Et ce dispositif électrogène permettant de faire de l'électricité à partir de neutrons de très haute énergie, bah, il faut le mettre au point, et pour le moment, il n'existe pas. ITER, premier plasma dans 5 ans, 10 ans de retour d'expérience, 5 ans pour derrière savoir comment est-ce qu'on fait l'exemplaire suivant, 10 ans pour construire l'exemplaire suivant, 10 ans de retour d'expérience, 5 ans pour se gratter la tête, enfin bon bref, vous additionnez, vous avez peut-être une tête de série à fusion si tout va bien en 2100. Bon, il faut qu'on soit neutre en carbone d'ici 2100, donc on oublie la fusion pour être neutre en carbone. Donc ça volera peut-être au secours du succès quand le succès sera là, mais il ne faut pas compter dessus pour l'atteindre. En ce qui concerne la fission, aujourd'hui, la seule fission exploitée dans le monde, c'est la fission de l'uranium-235. C'est le seul atome fissile qui soit naturellement à notre disposition sur Terre. On a également sur Terre des atomes dits fertiles, c'est-à-dire que si on leur fait manger un neutron, ils deviennent fissiles. C'est le cas de l'uranium-238, qui ensuite se transforme en plutonium-239, qui est fissile, et c'est le cas du thorium-232, qui ensuite se transforme en uranium-233, qui est fissile. D'accord. Mais ils ne sont pas fissiles à l'état naturel, alors que l'uranium-235 est fissile, vous lui faites manger un neutron, crac, il se casse en deux, et il vous fournit de l'énergie. L'énergie nucléaire qu'on exploite actuellement en France est celle qui est exploitée dans la quasi-totalité des pays du monde, c'est des réacteurs qu'on appelle à eau pressurisée, c'est-à-dire que l'eau est maintenue suffisamment fortement sous pression pour qu'elle atteigne des températures qui dépassent de très loin les 100 degrés sans se mettre à bouillir. D'accord, il n'y a pas de vapeur qui apparaît dans le circuit primaire, parce qu'elle est sous très forte pression. Les réacteurs de Fukushima étaient des réacteurs d'un concept différent, d'IAO bouillante, où là, il n'y avait pas de pression, c'était la pression atmosphérique, et l'eau se mettait à bouillir, et vous n'avez qu'un seul circuit du reste, au lieu d'avoir un primaire et un secondaire, comme en France. L'énergie nucléaire qu'on exploite en France, c'est des réacteurs donc, dits de deuxième génération, fonctionne bien, puisque pour le moment, on n'a pas eu de pépin majeur. Et il faut rappeler que les deux seuls accidents de réacteurs à eau pressurisée ou à eau bouillante qu'il y a eu dans le monde ont fait zéro mort, puisque c'était Fukushima et Three Mile Island, et aucun des deux n'a fait de mort à cause d'un quelconque surplus de radiation qui aurait été dégagé dans l'environnement. Et c'est un concept extrêmement différent de Tchernobyl, qui n'était pas un réacteur à eau pressurisée, donc on sait pas, les technologies ne sont pas comparables. Donc je le redisais, faire un réacteur c'est long, faire un réseau électrique avec des réacteurs c'est simple. Alors une fois que j'ai dit ça, quel est le meilleur pari à faire entre renouvelables, nucléaires ou un mix des deux? Voilà. Parce que les renouvelables ont pour elles que c'est facile de rajouter des éoliennes et des panneaux solaires en peu de temps, ou une éolienne exactement et un panneau solaire. Alors ce qui peut être long, c'est de discuter avec les gens du coin qui sont d'accord ou pas d'accord, mais par contre la partie strictement technique, elle n'est pas compliquée. Mais j'insiste, le réseau complètement alimenté par des ENR non pilotables, aujourd'hui personne n'a. Enfin, à grande échelle, en tout cas, personne n'a. Du côté, et en particulier pas au moyen de latitude, avec l'alternance de saisons qui sont très contrastées. Du côté nucléaire, ce qui est long aujourd'hui, c'est de faire un réacteur. Et donc a fortiori d'en faire 5. Par contre, une fois qu'ils sont là, de faire fonctionner le réseau, c'est simple. Alors, il y a plein de gens qui disent on n'a qu'à empiler les deux, ce qui est une option. Les gens qui disent on n'a qu'à empiler les deux disent, rajoute en plus, pour le scénario que j'ai vu qui allait jusqu'au bout, on va faire de grosses stations de pompage, justement, en prenant l'eau du Léman et en noyant des vallées au-dessus. Ou bien en prenant l'eau du barrage de Serre-Ponçon et en faisant une steppe au-dessus de Serre-Ponçon. Voilà, tout ça, on peut faire des trucs comme ça. Et c'est si on veut avoir dans un premier temps un déploiement rapide de mode non pilotable sans avoir de problème d'intermittence induite compliqué à gérer dans le réseau, c'est probablement une bonne solution. On peut aussi accélérer la cadence sur le nucléaire. Et ça, ça veut dire que dans l'esprit de la population, dans l'arbitrage entre le risque de l'objet et le risque de ne pas avoir l'objet, on se met à être beaucoup plus sensible au risque de ne pas avoir l'objet. Je m'entends. Aujourd'hui, le fait qu'on considère que le risque de l'objet est un risque tellement important qu'il faut mettre 253 paires de ceintures et 25 paires de bretelles avant de construire l'objet, conduit à des objets qui sont complexes, chers et longs à construire. L'EPR, il n'y a pas qu'en France qu'il a été long à construire. Il a été long à construire à Taishan, même s'il a été beaucoup plus rapide à construire à Taishan que chez nous. Il a été long à construire à Olkiluoto. Il est long à construire en ce moment à Hinkley Point. Donc en fait, c'est un réacteur qui est intrinsèquement compliqué. Il faut rappeler que c'est un design franco-allemand, avec 4 trains de sûreté à l'origine, ce qui est à mon avis 2 de trop. Donc en fait, on a vraiment rendu le système extrêmement compliqué, et il me semble que c'est un modèle, et du reste la raison pour laquelle on veut le simplifier le confirme, où on est arrivé sur le mieux qui était l'ennemi du bien. Si on pense qu'aujourd'hui, augmenter rapidement les capacités nucléaires françaises est le sujet, alors je vais dire une horreur, mais peut-être qu'une des options à examiner, c'est de laisser l'EPR au placard pour le moment et de reconstruire des réacteurs comme ceux qui sont actuellement en service. Peut-être. Qui sont plus simples, qu'on connaît bien, puisqu'on les fait fonctionner, et peut-être que ça ira au final plus vite.
Mais aux normes de sécurité de l'époque ou aux normes de sécurité actuelles?
Alors,
avec les 255 bretelles et ceintures.
Vous savez probablement que les normes de sécurité en France sont des normes qui sont conformes à l'état de l'art. Donc si vous les construisez, vous les construisez comme ils fonctionnent actuellement. Vous ne les construisez pas comme ils ont été construits à l'époque, puisqu'on les a améliorés depuis. Mais voilà. Mais, alors, je dis ça, j'ai rien dit, comme disait l'autre.
C'est une question qu'on a posée, nous.
Je dis juste, si vraiment le fait d'augmenter rapidement la capacité nucléaire française est un sujet, je ne sais pas si la meilleure option aujourd'hui, c'est de faire des EPR. Voilà. Et quand je dis je ne sais pas, je suis sincère. C'est-à-dire, je ne vous dis pas, ce n'est pas une façon déguisée de vous dire je suis sûr du contraire. Je ne sais pas. Je pense que c'est un débat technique et compliqué, pas facilement accessible sans y passer un certain temps, comme aurait dit l'autre, et un temps certain. Et en tout cas, c'est en tout cas pour moi une question qui se pose. Alors, c'est clair que cette question, elle se pose dans un contexte qui n'est plus celui d'il y a 30 ans. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi c'est une expression que j'ai souvent utilisée, il y a 20 ans de nucléaire honteux qui sont passés par là, donc les débats sur le nucléaire sont devenus un peu sensibles, quand bien même l'opinion a très fortement augmenté son acceptabilité du nucléaire sur les 2 dernières années, en France, comme partout en Europe. Merci Monsieur Poutine. Donc en fait, clairement, hein, partout en Europe, le nucléaire a gagné 20 points, 15 à 20 points de sentiment positif. C'est pas propre qu'à la France. Et pour moi, c'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Donc donc la question se pose vraiment de savoir si il faut faire des EPR2 à tire-larigot ou si il faut faire autre chose. Et je le répète, je ne sais pas.
Et la prolongation des
alors ça, il faut le faire dans tous les cas de figure.
Oui,
prolonger les réacteurs historiques, il faut le faire dans tous les cas de figure. Tant que ça tient, il faut les prolonger. Donc 60, 80, je ne sais pas. Là, c'est pareil. Moi, je ne suis pas qualifié techniquement. Ce que je sais, c'est qu'il y a une pièce qu'il est compliqué de changer dans un réacteur, c'est la cuve. Tout le reste se change. Vous connaissez probablement cette anecdote qui est qu'au moment où on a fermé Fessenheim, en fait, c'était un des réacteurs dans lesquels les équipements étaient, à part la cuve, les plus modernes, puisqu'on avait tout changé, parce que dans un réacteur, au cours de sa vie, vous changez tout, quoi. Donc, l'âge n'intervient que sur les pièces qu'on ne peut pas changer dans un réacteur, et donc en particulier sur la cuve. Bon. Mais tant que la cuve tient, faut continuer, hein. Il n'y a pas de raison. Parce que alors là, pour le coup, en termes de disponibilité et en termes de coût, il n'y a rien de mieux que de prolonger des réacteurs existants. Alors, il y a un point qu'il faut savoir, et là, on commence à rentrer dans la conjonction d'injonctions, je ne sais pas si je dois dire contradictoires, ou dans les conflits d'objectifs, on va dire, c'est que le développement d'énergie non pilotable conduit à moduler ce qu'on faisait déjà, hein, mais plus fortement encore les réacteurs nucléaires.
Pas les Américains.
Parce qu'eux, ils ont 20% de nucléaire. Donc en fait, la modulation se passe au-dessus du nucléaire. Parce que l'électricité aux États-Unis descende en dessous de 20% de la consommation maximale, ça n'arrive pas. Ou de la consommation annuelle moyenne, plus exactement. Ça n'arrive pas. Donc en fait, eux, ils les font tourner avec un facteur de charge de 90%, parce qu'ils ne modulent pas. Nous, on les fait tourner avec un facteur de charge inférieur, d'abord parce qu'on module, et ensuite parce qu'on a des travaux chez nous qui sont plus importants que chez eux. Parce que la philosophie de sûreté aux États-Unis, c'est qu'à tout instant, le réacteur doit être conforme à son design d'origine, alors que chez nous, c'est qu'à tout instant, il doit être conforme à l'état de l'art. Donc en fait, il y a des travaux d'amélioration qui font partie de la vie du réacteur et qui évidemment diminuent son facteur de charge. Donc le facteur de charge aux États-Unis, il est très supérieur, comme en Chine du reste. Le père de Taishan, là, il a un facteur de charge qui est extrêmement élevé. Tout simplement parce qu'en Chine, c'est pareil, comme le nucléaire représente une petite partie de l'électricité produite, il l'utilise à fond en permanence. On n'a pas besoin de lui pour la modulation. C'est autre chose qu'on utilise pour la modulation. Et même les Allemands, quand ils avaient du nucléaire, s'en servaient pas du tout pour la modulation. Parce que la modulation se faisait aux étages supérieurs, dans le gaz et éventuellement dans le charbon. Par contre, en France, non. Ce qui veut dire qu'en France, si on module beaucoup les réacteurs, ça les fait vieillir un peu plus vite. Voilà, donc là on a un petit conflit d'objectifs. Enfin, on va en avoir plein des conflits d'objectifs.
Ça c'est démontré ou...
Que ça vieillit un peu plus vite ?
Oui, que ça vieillit plus vite.
Oui, ça fait vieillir un peu plus vite les équipements.
C'est un petit questionnement.
Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet.
Je ne dis pas la cuve, je dis les équipements.
Les équipements.
Après, la quatrième génération. Alors, la quatrième génération, pour moi, c'est ce vers quoi on devrait aller le plus vite possible. Quand vous regardez aujourd'hui, alors là je vais raisonner à l'échelle mondiale. Aujourd'hui à l'échelle mondiale, vous avez entre 2200 et 2400 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, de puissance installée. Je vous rappelle qu'en France, on a tout moyen de production confondu à peu près 120 gigawatts, ou un peu plus peut-être avec les ENR qui s'ajoutent rapidement, dont à peu près 80 pilotables. Bon. Donc 2200, on n'est pas en train de parler d'une pécadille. Et si on voulait que le nucléaire joue un rôle significatif dans la substitution de ces 2200 gigawatts de centrales à charbon, il faudrait multiplier le parc nucléaire actuel par un facteur de plusieurs dizaines. Et par ailleurs, si on veut que tout ça soit durable, il faut que ça soit capable de durer quelques siècles. Il n'y a pas assez d'uranium-235 pour arriver à ça. D'accord ? Ce qui veut dire que si on veut que le nucléaire soit vraiment une énergie... significative dans le monde. Aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité, et l'électricité, c'est 20% des usages. Donc le nucléaire, aujourd'hui, c'est 2% des usages finaux. Donc ça ou rien, même si j'adore le nucléaire, c'est à peu près pareil. Si on veut que ça se mette à jouer un rôle très significatif dans les usages finaux, il faut ne pas avoir de facteurs limitants sur le combustible nucléaire. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe le plus vite possible à la quatrième génération. Ce qui veut dire que, de mon point de vue, sur la partie nucléaire, je ne parle pas de la partie ENR, sur la partie nucléaire, en France, le système qui me paraît être le système à étudier, c'est on prolonge les réacteurs actuels aussi longtemps que possible, on rajoute des EPR ou autre chose, ce qu'il faut pour faire la jonction, et on démarre dès que possible en programme Fast Track, un programme quatrième génération, que je pense qu'il serait pertinent de loger dans le cadre de l'alliance nucléaire qui avait été démarrée par Mme Pannier-Runacher et qui relèverait en gros d'une coopération restreinte. Donc ça, c'est une idée dont j'avais déjà fait la promotion il y a maintenant plus de 10 ans à l'administrateur général du CEA de l'époque qui m'avait écouté avec un sourire intéressé, où je lui avais dit ce qu'on devrait faire, nous les Français, c'est aller faire le tour d'un certain nombre de pays alliés en Europe, donc qui sont en gros ceux qu'on retrouve dans l'Alliance pour le nucléaire, et leur proposer un programme fast-track de quatrième génération qui serait à peu près le suivant. Chaque pays intéressé met quelques milliards sur la table, de telle sorte qu'on réunisse 20 à 40 milliards. On choisit 3 à 4 dessins de réacteurs, donc pas les 12 qu'on a dans le forum ou les 10 qu'on a dans le forum génération 4 actuel dans le monde. Là, de toute façon, il y a des trucs où il y a du graphite dans le cœur, ça on n'en veut pas. Il y a des trucs, enfin bon, bref. Il faut prendre que des designs qui bouclent le cycle du combustible, enfin bon, bref. Et sur chacun de ces designs, on fait 2 prototypes en Europe, histoire d'éviter l'accident industriel de construction sur l'un des deux, qui serait dû à Dieu sait qui se prend les pieds dans le béton ou je sais pas quoi. Donc on double pour faire de la redondance. Et les pays qui acceptent le prototype, ils l'acceptent en maîtrise d'ouvrage complète, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont telle part du budget, si ça dépasse, c'est pour leurs pieds, mais par contre, ils font comme ils veulent. Voilà, en gros. Et on va aussi vite que possible. Et j'ai dit, et si on fait ça, compte tenu du fait qu'il y a quand même des bouts de quatrième génération où on a déjà les idées claires, par exemple, le uranium, plutonium, à sodium fondu, ça on sait, on a déjà fait fonctionner, on sait que ça marche. Réacteur à sel fondu, on en a déjà fait dans le monde. Par contre, il y a encore des points à lever, en particulier le retraitement en continu, l'épuration en continu des déchets, ça on ne sait pas faire aujourd'hui. Enfin, bon, bref. Et je dis, si on fait ça, bah, avec un peu de chance, d'ici une vingtaine d'années, on commence à avoir, on retrouve d'ici 10 à 20 ans, sur certains dessins 10, d'autres 20, on retrouve de quoi déployer des réacteurs. Et il me semble que c'est ça la bonne tactique. Et à ce moment, on voit les ENR qui sont complexes à intégrer dans un réseau à large échelle et par ailleurs beaucoup plus gourmandes en emplacement et en matériaux, mais surtout en emplacement, comme un appoint qu'on utilise autant qu'il le faut, le temps qu'il le faut. Donc, il ne faut pas être contre. Mais par contre, comme on sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver à un système complet basé là-dessus, et que par ailleurs, à partir du moment où on a des réacteurs, on n'a aucune raison de les arrêter parce qu'il y a du vent, parce que ça ne fait qu'augmenter le coût par kilowattheure produit, puisqu'un réacteur, c'est que des coûts fixes. Hein. Donc ça n'a pas d'intérêt économique, j'ai envie de dire, de faire ça. Et c'est dans cette optique-là qu'on réfléchit. Donc personnellement, moi, c'est plutôt le système dans lequel j'aurais envie de me projeter. Et sur la construction des réacteurs, on essaye d'arriver rapidement à un consensus avec la population sur le fait que le mieux n'est pas l'ennemi du bien et qu'aujourd'hui, il y a déjà bien assez de précautions qui sont prises, et même trop de précautions qui sont prises sur les réacteurs dans un pays où, par ailleurs, l'alcool est en vente libre, le tabac est en vente libre, il y a 3000 personnes qui se tuent en voiture tous les ans et le cannabis n'est pas en vente libre, mais quasi, et il fait aussi des ravages. Donc je pense que... l'un des points bloquants dans cette histoire, c'est l'absence de culture de gestion du risque dans les débats publics et le fait qu'on ait beaucoup de mal à arriver à débattre publiquement de l'arbitrage entre les risques. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et le débat récent des Européennes ne vient pas rajouter de la sérénité là-dedans.
On ne va pas rentrer dans les Européennes. Simplement, sur le nucléaire, là, de question complémentaire, merci pour tout ce que vous avez dit, parce que ça me paraît très clair. Sur le multi-recyclage des déchets, qu'est-ce que vous en pensez, notamment versus utilisation du plutonium? Parce que si on redéveloppe une quatrième génération, est-ce qu'on peut faire les deux ou pas?
Et puis, qu'est-ce que vous appelez le multi-recyclage des déchets?
C'est le fait de réutiliser.
Parce qu'aujourd'hui, le MOX,
c'est pas le MOX.
C'est pas du multi-recyclage, hein, c'est du recyclage unique, hein, le MOX.
Oui, le MOX, mais ça va au-delà. Il n'est pas encore développé. C'est un projet.
D'accord. Donc c'est l'idée qu'on pourrait réutiliser les éléments encore fissiles dans le combustible issus du MOX. Plusieurs fois.
Okay. Plusieurs fois.
Alors ça, c'est une question technique que j'ai pas regardée, donc j'ai pas d'avis là-dessus.
Parce qu'on a l'impression, on a le sentiment que ça peut venir en contradiction avec le développement d'une quatrième génération et notamment l'utilisation du plutonium.
Dans le multi-recyclage des déchets, vous avez notamment le fait d'à chaque fois de récupérer le plutonium utilisable, je suppose.
Oui, mais enfin, on en perd à chaque fois.
On perd un peu, oui. Pas beaucoup.
Je sais pas. Bon. Sur le petit nucléaire, le SMR, là.
Le SMR, c'est une version sur laquelle je n'ai pas les idées très claires, au sens où j'ai compris que l'idée, c'était de d'industrialiser à l'amont du site la fabrication d'un certain nombre de composants ou de blocs complets, histoire de pouvoir être plus rapide au moment de l'installation sur site. Je n'ai pas les idées claires, parce que tant qu'on n'a pas le retour d'expérience permettant de voir si la théorie est confirmée ou pas, je ne sais pas. Donc je connais la théorie. En tout état de cause, quand vous demandez aux personnes qui sont en charge et que vous avez peut-être reçu quel ordre de grandeur de capacité ils sont capables de sortir par an, on parle de l'ordre d'un gigawatt de puissance par an, ce qui est très en dessous de ce qu'on a construit en France au moment du plan Messmer, puisqu'on était plutôt à 5 gigawatts par an, et ce qui est significativement en dessous de ce qu'il faudrait arriver à refaire si on veut que le nucléaire joue un rôle significatif avec électrification des usages. Parce que pour en venir à votre première question, quand on fait des calculs globaux, on se rend compte que la France aujourd'hui, alors je vais sortir quelques chiffres, la France consomme aujourd'hui à peu près, sauf erreur de ma part, 1600 TWh d'énergie finale. C'est-à-dire que l'énergie qui alimente les machines, celle qui sort du système énergétique qui alimente les machines, c'est 1600. Mais compte tenu du fait que l'essentiel des vêtements que vous portez, des voitures que vous conduisez, des machines à laver que vous utilisez et des brosses à dents que vous utilisez sont importées, et ce truc-là aussi du reste, en fait, l'énergie qui permet d'alimenter le mode de vie d'un Français, c'est plutôt 2600 TWh par an. Et pas 1600. Donc je me place dans un contexte de réindustrialisation et de décarbonation simultanée. D'accord, je fais les deux à la fois. C'est l'écologie, comment ils appellent ça, patriotique de Wauquiez. Là, non, comment ils appellent ça, je sais pas. Il nous a inventé un nouveau truc là récemment. Donc 2600 TWh. Aujourd'hui, le nucléaire en produit moins de 400. Alors, quand vous électrifiez les transports, vous gagnez un facteur 3 à 4 au passage. D'accord. Et dans ces 1600 TWh, il y en a quand même à peu près, sauf erreur de ma part, 450 à 500 qui vont dans les transports. Donc là, en électrifiant, bah vous allez gagner 300 TWh d'efficacité, tout simplement, hein, parce que le moteur électrique est beaucoup plus efficace que le moteur thermique. Quand vous électrifiez le chauffage, c'est pareil. Quand vous passez de la chaudière à gaz à la PAC, vous gagnez beaucoup en énergie finale. Donc il y a plein d'endroits comme ça dans lesquels vous allez gagner. Il n'empêche, passer de 360 de nucléaire à une fraction significative des 2600 qu'on utilise aujourd'hui, toutes énergies confondues avec les machines qu'on utilise aujourd'hui, bon courage. Ce qui veut dire que, dans mon point de vue, même un développement rapide des modes électriques décarbonés, quel qu'il soit, et même une électrification rapide des usages, ne nous évitera pas une grande démarche de sobriété. Et ça sera vrai même si, et encore j'ai envie de dire, d'autant plus qu'on souhaitera réindustrialiser, parce que toute l'énergie qui sera mangée par l'industrie ne sera pas mangée par les particuliers. Donc il y a quelque chose de très important à garder en tête. Je le disais il y a une dizaine d'années en rigolant que j'étais un décroissantiste pro-nucléaire, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je pense qu'on n'évitera pas une contraction très forte d'une manière générale des usages. Et donc, par exemple, la très bonne voiture électrique s'appelle un vélo électrique. Et le très bon avion du futur, ce n'est pas un avion à hydrogène, c'est un train, etc. Et c'est en particulier pour venir du sud de la France, hein, je n'ai rien dit. Oui.
Mais j'écoute.
Absolument. Et donc, même si on met l'accélérateur très très fort sur l'un et ou l'autre, donc les ENR décarbonés ou le nucléaire, j'insiste vraiment sur le fait que ça ne nous évitera pas de baisser très fortement l'énergie nécessaire à notre mode de vie, qu'elle est liée chez nous ou qu'elle soit utilisée à l'étranger. Ça va être de toute façon quelque chose de très significatif.
Je ne sais pas si mes collègues ont des questions.
Alors, je n'ai pas fini, vous en aviez une dernière, c'est les prix et les coûts.
Alors, voilà.
Alors, en fonction du mode de production, c'est plus ou moins facile de spéculer sur l'un et ou sur l'autre. Alors d'abord, je vous rappelle que dans un système basé sur un marché ouvert, pour ne pas dire libéralisé, vous pouvez n'avoir qu'un lointain rapport entre les prix et les coûts. On l'a constaté il n'y a pas très longtemps, puisque c'est le coût de production marginal qui fait le prix de marché, et ça peut n'avoir qu'un très lointain rapport avec les coûts réels de production de l'essentiel du parc. Donc ce que seront les prix, je n'en ai aucune idée, et donc je vais sortir mon joker pour savoir ce que seront les prix, je ne sais pas. Ça va notamment beaucoup dépendre du fait qu'on retourne vers un système de prix régulé et encadré, ou qu'on ait un système de prix de marché qui sont ce qu'ils sont. En ce qui concerne les coûts, alors sur les modes qui utilisent des combustibles fossiles, le coût n'est pas plus prévisible que le coût du combustible fossile, puisque pour une centrale à gaz, ce qui coûte cher, ce n'est pas la construction de la centrale, c'est le coût du gaz. Par contre, en ce qui concerne les modes décarbonés, c'est ce qu'on appelle des modes à coût fixe, parce que vous payez tout l'argent au moment où vous construisez le mode, et après, le vent est gratuit, le soleil est gratuit, et le combustible nucléaire est quasi gratuit. D'accord, même avec un prix de la livre d'uranium qui serait multiplié par 10, ça reste quelques euros de prix par mégawattheure, donc c'est pas cher, on regarde du coût complet. Qu'est-ce que vous payez quand vous payez ces modes? Vous payez le banquier et l'entreprise qui a construit, dans cet ordre en général. Je vais vous donner un petit calcul d'ordre de grandeur que j'avais fait il y a quelques années qui m'avait frappé. Si vous prenez un dispositif de production d'électricité décarbonée, quel qu'il soit, un réacteur nucléaire, barrage, éventuellement une éolienne qui durerait longtemps, et que cet engin coûte 10 milliards, alors si c'est une des éoliennes, il en faut beaucoup, mais que cet engin coûte 10 milliards à construire, en passant de 2 à 10% de coût du capital, vous augmentez de 90 milliards d'euros les frais financiers sur la durée de vie et de fonctionnement de l'installation. D'accord ? Ça explique pourquoi ces modes décarbonés à durée de vie longue, c'est par essence des modes qui doivent se retrouver dans un cadre d'accès au financement qui est un cadre public ou quasi-public. Public ou garanti par le public, parce qu'entre 2 et 10%, ça fait quand même une petite différence. Et donc, à partir du moment où ça coûte 10 milliards à construire et 90 milliards de frais financiers, c'est bien que vous payez dans cet ordre le banquier, puis le constructeur du dispositif. C'est bien dans cet ordre-là que ça va. Donc, en ce qui concerne les modes décarbonés, vous avez un élément qui est essentiel sur le coût futur, c'est à quel prix de l'argent vous accédez au capital. Et de ce point de vue, je pense que la renationalisation d'EDF, si ça la conduit à avoir la signature de l'État sur sa dette, c'est une excellente chose parce que ça va faire baisser très fortement les intérêts intercalaires et donc du coup le coût du mégawattheure à l'arrivée. Même avec un nucléaire qui coûte extrêmement cher à construire comme à Hinkley Point, eh bien, si au lieu d'emprunter à 10%, parce que c'est à peu près le prix auquel ils ont, enfin le taux auquel ils ont emprunté, les Anglais avaient emprunté à 2%. Le mégawattheure à Hinkley Point sortirait, même avec les retards, très en dessous de 100 euros du mégawattheure. Très, très en dessous. On serait quelque part aux alentours de 60, 50 ou 60, voilà. Donc, donc, sur les modes décarbonés, le coût est une affaire. Parce qu'une fois que vous avez le coût de construction et le prix de l'argent, vous avez une très forte visibilité sur ce que sera votre coût de production sur la durée de vie de l'infrastructure. Alors, vous pouvez avoir quelques surprises, un grand carénage par ici, etc., un arrêt inopiné là, mais en gros, vous avez quand même une très bonne visibilité, ce que vous n'avez pas avec les combustibles fossiles. Et ce que je vous dis, ça vaut avec une installation solaire comme éolienne, comme un barrage, comme du nucléaire, en gros. Tout ça, c'est des installations à coût fixe. Comme c'est des installations à coût fixe, vous n'avez par ailleurs pas intérêt à diminuer délibérément leur production. Donc l'écrêtage du solaire, quand il y a du soleil, c'est pas une bonne affaire sur le plan économique. Vaut mieux éviter d'avoir à le faire. Et la modulation à la baisse du nucléaire, si vous n'êtes pas obligé, c'est pas une bonne affaire sur le plan économique non plus. C'est sous-optimal du point de vue du système dans son ensemble. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est que si on parle de durabilité, alors certes, vous allez me dire, un mandat ici, c'est 6 ans ou 9 ans ? 6 ans, voilà. Donc on va parler de durées qui sont un peu au-delà d'un mandat ici, mais si on se projette au-delà du siècle, le système, il ne faut pas seulement le faire, il faut être capable de le reconstruire. Or, ce que sont les coûts de construction aujourd'hui ne présage en rien de ce que seront les coûts de reconstruction dans 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Je vais prendre l'exemple des renouvelables pour bien me faire comprendre. Le coût d'installation d'une éolienne ou d'un panneau solaire a considérablement diminué sur les dernières décennies. C'est juste dû à la productivité industrielle amenée par les combustibles fossiles. Une éolienne, c'est un produit industriel ordinaire. C'est fait de métal, de chimie organique, etc. C'est un produit industriel ordinaire. Tout aussi ordinaire que ce truc-là et ça, c'est juste plus gros, quoi. Et un champ solaire, c'est pareil. C'est un produit industriel ordinaire. Donc à partir du moment où on a décidé d'en faire à grande échelle avec les règles du jeu du système industriel, on a fait baisser les coûts. Par ailleurs, ce sont des produits qui ont bénéficié de la mondialisation. Puisqu'aujourd'hui, plus de 90% des cellules solaires dans le monde sont fabriquées en Chine. Ce pays est en train d'essayer de refaire le même coup sur les composantes éoliennes. Enfin, les composantes de l'éolien, pardon. La mondialisation, c'est des porte-conteneurs et des camions, c'est-à-dire du pétrole. Et avant qu'on nucléarise ou qu'on fasse avancer à la voile la totalité des porte-conteneurs, il va se passer un moment. Et avant qu'on nucléarise ou qu'on fasse avancer à la voile la totalité des camions, il va se passer un moment aussi. Dans un monde avec beaucoup moins d'hydrocarbures, vous allez donc démondialiser l'économie. Que deviennent les coûts de production des objets industriels nécessitant de rassembler des dizaines d'éléments différents dans un monde qui se démondialise ? Je ne sais pas. Alors là, pour le coup, je ne parierai pas un centime de mes propres économies sur le fait que je vais vous donner une indication précise. Par contre, la logique voudrait que ça se mette à réaugmenter. Donc, une des choses qu'il faut garder en tête, c'est que les coûts de construction actuels ne sont pas prédictifs, ou l'évolution sur les 10 ou 20 dernières années des coûts de construction actuels ne peuvent pas être pris comme étant prédictifs des coûts de reconstruction dans 50 ans. D'accord ? Les coûts de reconstruction dans 50 ans seront beaucoup plus fidèlement approchés par ce à quoi ressemblera physiquement le monde dans 50 ans que par l'économie actuelle. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est quand même une précaution très importante qu'il faut rappeler. Alors, c'est vrai pour les centrales nucléaires et les éoliennes, comme c'est vrai pour les t-shirts, les voitures ou les machines à laver. Hein. C'est vrai pour tout. Mais c'est en particulier vrai pour ça.
Merci, oui. Merci, Monsieur Giancofisi, pour toutes ces explications et ces réponses. J'aurais quelques questions. Est-ce que vous voyez un intérêt dans le contexte actuel, du point de vue national, à ce que l'énergie qui finalement est utilisée pour définir le prix marginal sur le marché spot soit complètement décarbonée, c'est-à-dire qu'on puisse s'affranchir concrètement du gaz naturel comme les Allemands sont en train de le faire, vous l'avez évoqué. Est-ce que pour vous c'est un sujet? Pour nous, pour moi, ça me semble avoir son importance parce que ça permettrait de construire des prix, en tout cas sur la partie marché, reflétant la composition du mix de production énergétique nationale. Donc voilà, je vous pose cette question. Deuxième question, dans la démarche du Shift Project, Vous gardez, si j'ai bien compris les graphiques, vous gardez une part importante au pétrole dans la consommation d'énergie finale. On est pratiquement à 150 TWh. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que des pans de l'industrie ne peuvent pas faire sans le pétrole dans leur process industriel. Et est-ce que ça, derrière ça, il y a la nécessité de mettre en œuvre des techniques de captation de carbone, de stockage de carbone? Et quel est votre regard sur ces techniques-là? Parce qu'on a reçu des pétroliers qui nous disent qu'effectivement, pour eux, en gros, c'est la solution pour pouvoir continuer à consommer, évidemment, à vendre du pétrole. On peut par ailleurs les comprendre dans leur logique à eux. Voilà, ça c'est ma deuxième question. Troisième question, dans la démarche du Shift Project...
J'ai déjà oublié la première. La première, c'était...
La première, c'était sur l'énergie... L'énergie marginale, la centrale marginale.
Ouais, le système de prix.
Voilà. Est-ce que vous y voyez un intérêt? Moi, je pense qu'il y a un intérêt d'un point de vue géopolitique.
Non, mais c'est okay, centrale marginale.
Voilà, centrale marginale. Donc, et question suivante. Donc, vous faites la proposition d'un programme de transformation de l'économie française, vous l'appelez comme ça. Quel regard portez-vous sur la manière dont les processus de planification, en particulier leur contenu, sont aujourd'hui déployés dans notre pays? Voilà, il y a une planification écologique qui a été conçue, dont la mise en œuvre est en cours, notamment sur les territoires. Tout ça n'est pas très simple. Et voilà, quel regard portez-vous là-dessus par rapport aux préconisations que vous avez pu faire en la matière?
D'accord. Pardon.
Et j'en avais une autre, je termine là-dessus. Je suis de ceux qui ont lu avec intérêt la BD qui a été tirée de votre livre là sur le monde sans fin. À la fin justement de cet ouvrage, vous évoquez la lutte entre le striatum et le contexte préfrontal, si j'ai bien compris, qui renvoie, alors c'est une donnée presque anthropologique, qui renvoie à notre rapport finalement à la satisfaction et entre autres à la consommation. Ça me paraît bon, intéressant d'abord. Et ma question, c'était voilà, est-ce que vous avez des propositions par rapport à ça? Je sais que vous en avez une, c'est que vous appelez bon, le contraire de l'écologie punitive, hein, pour que faire des choses qui satisfont et qui vont dans le bon sens, dans le sens recherché. Mais voilà, comment cette chose-là, vous l'appréhendez au-delà de l'avoir voilà, mise noir sur blanc et de l'avoir fait apparaître dans le débat. D'accord. Voilà, merci.
Alors sur la centrale marginale, moi je suis en fait beaucoup plus radical que de mettre une autre centrale marginale. Moi je pense que ce système de marché tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est un système monstrueusement créateur de volatilité et qu'il faut peut-être pas le supprimer, mais enfin quelque chose qui n'en est pas très loin. Il y avait en France à une époque un système qui marchait très bien, qui était un système de prix encadré dans lequel le prix reflétait la moyenne des coûts de production par plage horaire. Moi, je serais tout à fait partisan que l'essentiel du système revienne à ça.
D'accord. Mais dans un contexte européen, quand même, ça ne vous a pas échappé donc.
Alors, dans un système qui est au maille de la plaque, de l'interconnexion réelle. Sauf que l'interconnexion, elle est réelle pour la fréquence, elle n'est pas vraiment réelle pour les volumes.
Mais ça, c'est la physique. Après, il y a des principes de concurrence, de libre marché, etc.
Bah justement, quand la Commission a décidé que l'électricité était un bien ordinaire, je pense qu'elle s'est mis le doigt dans l'œil assez profondément, parce que l'électricité n'est pas un bien ordinaire. C'est pas un bien substituable, pour commencer, je l'ai dit avant que vous arriviez. Si le Sénat devait être privé d'électricité définitivement, eh bien, vous n'avez pas un autre bien qui permet facilement, vous n'allez pas facilement remplacer ça par des grappes de raisin, des paires de chaussures supplémentaires ou qu'est-ce que je sais, ou même des bougies pour fonctionner comme avant. Vous ne fonctionnez plus, voilà. Enfin, ou en tout cas, plus vraiment comme aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale d'appréciation sur ce qu'est vraiment l'électricité quand ce marché a été mis en place et que moi je suis partisan d'un détricotage significatif du système et en tout cas je suis partisan d'une vision qui consisterait à repartir de la physique justement. Alors quand je suis partisan d'eux, ça ne veut pas dire que ça va arriver demain matin, mais je veux dire c'est dans cette direction qu'il faudrait aller. Sur la CCS, alors la CCS, elle ne s'applique pas vraiment aux usages du pétrole, parce que le pétrole, il sert à deux choses dans le monde. Il sert d'abord de matière première pour la chimie organique, à la fois avec les éléments très légers et les éléments très lourds qui sortent d'une raffinerie. Donc très lourd, c'est les huiles, les cires, le bitume. Tout ça n'est pas brûlé, tout ça a d'autres usages. Et le naphtha, c'est-à-dire la fraction la plus légère de la distillation, enfin du raffinage, qui sert à faire des fibres synthétiques, enfin du plastique et des fibres synthétiques. Bon. Là-dessus, il n'y a pas de sujet de CCS. Sur tout ce qui est entre les deux, ça sera brûlé pour l'essentiel sous forme de carburant pour des engins de transport. Le fioul lourd part un peu dans l'électricité, beaucoup dans la marine marchande. Le diesel au-dessus part un peu dans l'industrie, un peu dans le chauffage, beaucoup dans les camions et dans une partie du parc automobile. L'essence part essentiellement dans les automobiles et le jet fuel part essentiellement dans les avions. Bon. Donc l'essentiel du pétrole est brûlé dans des sources mobiles avec du CO2 émis de façon diffuse. Il y a zéro CCS qui va s'appliquer à ça. La CCS, c'est fait pour des sources concentrées et fixes de CO2. Donc la CCS, si un jour ça s'applique à quelque chose, c'est au charbon et au gaz. Donc les pétroliers étant aussi des gaziers en termes d'extraction d'hydrocarbures, cette partie-là peut les intéresser, sur la partie gaz. Et effectivement, vous pouvez envisager de mettre du captage et du stockage de CO2 sur, par exemple, du vaporeformage de méthane. Comme ça, ça vous permet de faire de l'hydrogène, dont j'ai découvert qu'il était bleu, celui-là, parce qu'il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, l'hydrogène. Ça permet éventuellement de faire continuer à fonctionner des centrales à charbon avec de la CCS, mais il faut savoir aussi que cette CCS, elle n'est jamais de 100% sur les émissions de CO2. C'est toujours un talon de 10 ou 15% des émissions qui ne sont pas captées. Donc pour le 0,0, ça ne marche pas. Ça marche pour se débarrasser d'une bonne partie, mais ça ne marche pas pour le 0,0.
Par ailleurs, va avec la CCS ce qu'on appelle une pénalité énergétique, parce que le principe de la capture du CO2 en sortie de cheminée d'usine, c'est qu'on fait passer la fumée, après l'avoir épurée de ses poussières, dans une chambre dans laquelle elle entre en contact avec des amines. Et à ce moment, le CO2 est absorbé par les amines qui opèrent une réaction chimique réversible, et la réversibilité s'obtient en faisant chauffer les amines. Donc en gros, vous mettez la fumée en contact avec les amines, la fumée est débarrassée de son CO2, et le reste de la fumée, qui est essentiellement de l'azote, hein, en gros, une fois que la fumée est épurée, repart dans l'air, de l'azote et de la vapeur d'eau. Et une fois que vous avez ces amines qui sont chargées en CO2, vous les chauffez pour récupérer le CO2 que vous compressez, que vous enfouissez. Cette opération entre le chauffage des amines et la fabrication en continu d'un peu d'amines supplémentaires, parce qu'il y en a une partie qui est érodée dans le processus, enfin qui est consommée dans le processus, ça va vous utiliser entre 20 et 30% de l'énergie primaire de votre site. Donc la pénalité énergétique qui s'applique à la CCS, elle n'est pas négligeable, en particulier à la capture. Ça veut dire que sur un site qui produisait quelque chose, à énergie disponible constante sur le site, vous allez avoir 20 à 30% de production en moins, puisque l'énergie en question ne servira plus à produire, elle servira à alimenter le dispositif de capture. Eh oui.
C'est beaucoup.
C'est significatif, on va dire. Et si on veut éviter ces 20 à 30% de production en moins, ça veut dire qu'il faut alimenter le site avec 30 à 40% d'énergie en plus, ce qui est possible ou pas possible. Si c'est du charbon, ça pose des problèmes logistiques qui ne sont pas minces en général. Et puis éventuellement, il faut tout casser à l'intérieur du site pour redimensionner les brûleurs, l'installation industrielle, qu'est-ce que je sais. Donc c'est pas si simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que je m'intéresse au changement climatique, j'entends parler de ce truc-là, avec des réalisations en pratique qui restent anecdotiques, hein, qui restent marginales. La planification. Alors la planification est quelque chose qui a toujours eu lieu dans notre pays à des degrés variables. Lors de la reconstruction, pour prendre des époques qui ne sont pas trop anciennes, il y a eu une planification extrêmement forte qui était née à la fois des nécessités du moment, parce que l'État avait une main très présente sur les opérations, et on n'allait pas laisser au marché privé le soin de reconstruire les chemins de fer, les routes, le réseau électrique, etc. Donc l'État a énormément planifié sur des objets qui étaient extrêmement concrets. Par ailleurs, on était quand même en co-gestion avec les communistes, fruit de la résistance, donc il y avait aussi cette filiation-là de la planification qui était très importante, et qui a été par la force des choses moins importante dans d'autres pays européens qui n'ont pas connu le même destin juste après-guerre, et en tout cas qui n'ont pas été libérés par la même coalition. Et on a une tradition jacobine centralisatrice dans notre pays qui s'accommode très bien aussi du fait qu'il y ait un État qui décide de beaucoup de choses, et donc en particulier d'un horizon long terme, et d'une planification long terme. Et on a toujours eu de la planification. Tous les documents d'urbanisme, par exemple, sont des documents de planification. Les documents il y a toujours eu une planification sur les transports, par exemple, etc. Alors, il est clair que dans les quelques décennies que nous venons de connaître de mondialisation libérale heureuse, on a eu tendance, même en France, à en faire de moins en moins. En gros, quand tout va bien, les horizons de temps se raccourcissent. En gros. Et puis là que maintenant les choses recommencent à aller pas très bien, on redécouvre la vertu des horizons de temps un peu plus longs, et donc de la nécessité de planifier les choses. Et planifier a notamment une vertu, c'est que ça permet de gérer ex ante les effets d'éviction. Quand vous ne planifiez pas, c'est le marché qui gère les effets d'éviction, et cette gestion, c'est-à-dire les concurrences qui n'arrivent pas à trouver de solution où tout le monde a ce qu'il veut, et ces effets d'éviction peuvent être particulièrement violents. Bon. Quand c'est planifié, en général, c'est built-in, c'est-à-dire c'est construit, c'est à l'intérieur. Le raisonnement même intègre ces effets d'éviction et permet de normalement que les choses se passent mieux. Alors, comme c'est un processus qu'on redécouvre dans notre pays, parce que les heures glorieuses du commissariat au plan et de la DATAR sont loin, eh bien, ça ne va pas sans un certain nombre de ce que vous appelez des complexités et de ce que moi j'appelle des frictions ou de l'apprentissage, c'est-à-dire le fait qu'il faut se remettre à un truc qu'on avait oublié, et ça nous enquiquine, parce que tous autant qu'on est, quand on se rajoute un élément nouveau dans la corbeille, ça nous enquiquine, ça nous fait un quotidien un peu plus compliqué, et en général on n'aime pas ça. Après, je ne suis pas suffisamment dans le secret des dieux, ou dit plus précisément, je n'ai pas suffisamment l'œil sur ce qui se passe dans les collectivités locales pour savoir jusqu'où est-ce que c'est un problème, pas un problème, est-ce que c'est bien accepté, pas bien accepté, etc. Ce que je sais, c'est que nécessairement, ça vient changer des habitudes, et changer des habitudes, ça va nous emmener sur votre quatrième question, parce que en fait, c'est ça le sujet. C'est quelque chose que on aime bien quand on l'a décidé, mais qu'on n'aime pas quand c'est les autres qui nous l'imposent, en général. Et donc, la planification, il y a quand même une petite partie où c'est les autres qui vous disent, bah, maintenant, on va faire comme ça, on a un peu changé les règles du jeu. Et donc, vous êtes sûr, ça serait quand même pas plus mal de faire comme on faisait avant, quoi. Voilà. Okay. Il faudra voir l'usage. Ce qui est sûr, c'est que si je regarde le secrétariat général à la planification écologique qui a été mis en œuvre, il était beaucoup plus en cours au moment où il a été installé et du temps d'Elisabeth Borne qu'il ne semble l'être aujourd'hui du temps de M. Attal, qui n'a pas l'air de manifester pour ce genre de sujet une attirance particulière.
Je crois aussi.
Enfin, en ce qui concerne votre dernière question, alors, il y a quelque chose que j'ai coutume de dire souvent maintenant dans mes interventions, c'est que si on a pendant deux siècles carboné l'économie, puisqu'il y a 200 ans, nous étions dans un monde essentiellement renouvelable. Et donc, pendant deux siècles, on a essentiellement passé notre temps à carboner l'économie. Alors, si on l'a fait, c'est qu'on l'a fait parce que ça correspondait à des envies profondes des bipèdes que nous sommes. Et on a en particulier une envie profonde, qui est une envie biologique. Alors, dans le monde sans fin, on l'a incarné sous forme du striatum. Personnellement, je suis pas biologiste, je suis pas neurologue, je suis pas etc. Donc, je ne sais pas si c'est le striatum ou pas le striatum. Et à la limite, je m'en fiche un peu. Il y a quelques personnes qui ont dit « Ah, mais en fait, ça serait pas le striatum, etc. » La personne qui en a parlé raconte n'importe quoi. Très honnêtement, je m'en fiche un peu parce que le comportement que je vais décrire maintenant, lui, il s'observe vraiment dans la vie réelle. La quasi-totalité des êtres vivants partage une caractéristique qui est d'économiser le plus possible leurs réserves d'énergie parce que c'est un mode de survie pour faire face à l'alimentation aléatoire et au fait d'échapper aux dangers quand on est un animal. Donc on accumule des réserves et on en accumule autant qu'on peut. Que ce soit l'arbre ou que ce soit votre chat qui roupille toute la journée ou que ce soit nous, on accumule des réserves parce que ça permet de faire face à des périodes où on n'aurait pas à manger ou pas assez à manger et parce que ça permet éventuellement de faire face à un danger comme par exemple échapper à un prédateur. À ce moment, il faut être sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour courir très vite ou si on est soi-même un prédateur, courir très vite pour attraper la proie. Donc en fait, on a besoin d'accumuler des réserves. Et nous avons également besoin, depuis que nous sommes des civilisations des moyennes latitudes, on a besoin d'accumuler des réserves pour passer la période où il ne pousse rien. Donc on a besoin d'accumuler l'été, de la farine, enfin du blé, du foin, etc., pour être sûr qu'on va passer l'hiver. Et vous vous rappelez de cette vieille maxime qui n'existe plus aujourd'hui, mais il ne passera pas l'hiver. C'est bon, il fallait passer l'hiver. Du coup, des siècles et des millénaires, ou des dizaines de millions d'années du reste, puisqu'on partage ça avec l'essentiel des êtres vivants, ont fait de nous des animaux paresseux et accumulatifs par nature, globalement. Hein. Donc si on peut en avoir le plus possible en se fatiguant le moins possible, on prend. Et c'est ça que les combustibles fossiles nous ont amenés. C'est d'en avoir le plus possible en se fatiguant le moins possible. Et je ne sais pas si c'est le striatum ou pas le striatum, mais c'est comme ça qu'on se comporte en pratique. Et la dernière chose, que là, pour le coup, on ne partage pas nécessairement avec les arbres ou avec les rorquals, c'est que nous sommes des animaux sociaux. On vit en groupe. Et dans le groupe, les éléments de statut sont importants parce qu'ils sont marqueurs de notre place dans la hiérarchie et notre place dans la hiérarchie nous confère des avantages. Voilà. Si les éléments de statut n'avaient aucune importance, vous ne seriez pas sénateur, je n'aurais pas fait l'école polytechnique et tous les gens qui vont nous regarder n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait et Porsche ne vendrait pas une voiture. D'accord ? Donc les éléments de statut, c'est également quelque chose qui est un moteur du comportement humain et avec les combustibles fossiles, chacun a pu augmenter son statut ou en tout cas penser qu'il allait pouvoir l'augmenter. Puis une fois qu'il y en a un qui a commencé, les autres suivent. Hein, c'est, voilà. Ce qui veut dire que le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes dans cette affaire, c'est un travail sur les signes statutaires. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien considéré par le groupe ? Alors, il y a eu des époques où ce qui faisait qu'on était bien considéré par le groupe n'était pas nécessairement monétaire ou matériel. par exemple les moines, par exemple le clergé, il avait des signes de reconnaissance de la part de la population qui n'étaient pas liés en théorie, je dis en théorie, à ses possessions matérielles, même si les moines cisterciens ont partiellement démenti cette affirmation. Il y a également donc en fait l'auteur là auquel on fait appel dans Le Monde sans fin, là, Sébastien Boller, il a commencé par faire un bouquin sur le striatum auquel il impute lui nos comportements un peu animaux, notre envie d'accumuler, etc. Puis ensuite il en a fait un, je dis, il faut quand même pas désespérer Billancourt, donc il en a fait un deuxième qui s'appelle Où est le sens, dans lequel il dit non mais rassurez-vous, il y a quand même une superstructure dans le cerveau qui contrôle un peu tout ça, et qui lui fait que on a besoin de sens. Alors le sens, c'est les habitudes dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi le fait d'avoir, c'est ce qui fait aujourd'hui l'engagement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent aujourd'hui ? C'est parce que le sens est également quelque chose qui est important pour nous. Et ce qu'il va nous falloir faire comme travail sur nous-mêmes aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver du sens et à trouver de la satisfaction, parce qu'effectivement, je crois que ce qui nous fait avancer fondamentalement, c'est des sentiments positifs, c'est pas des sentiments négatifs, sauf pour quelques tueurs psychopathes, mais enfin, on n'a pas envie de leur ressembler. Et il va nous falloir trouver des sens dans des choses qui sont compatibles avec la sobriété. Voilà, c'est ça le travail qu'il va falloir qu'on fasse sur nous-mêmes. Et ça va être un travail qui va être pas simple. C'est un travail qui ne relève absolument pas des ingénieurs que je représente. Absolument pas. C'est un travail qui ne relève raisonnablement pas des scientifiques des sciences dures, qui sont ceux qui étudient le climat, etc. Ça relève d'autres débats. Voilà. Et c'est cette place que pendant longtemps la religion a occupée dans nombre de pays, et occupe encore dans nombre de pays, mais beaucoup moins, donc ça c'est un fait anthropologique bien connu, hein, beaucoup moins dans les pays occidentaux, à part chez les républicains américains. Et c'est Il va falloir, alors je ne dis pas qu'il va falloir retrouver un fait religieux, mais ça y ressemble. Enfin, il va y avoir à un moment quelque chose qui va devoir faire sens pour les individus sans que ce soit matériel, et permettre de faire société sans que ce soit nécessairement une course à l'accumulation. Voilà. Et ce travail-là, aujourd'hui, il est à trop bas bruit pour qu'il nous permette vraiment d'aller à la bonne vitesse dans le défi qui se présente devant nous. Et ce travail-là est probablement, enfin il n'est pas probablement, il est certainement aussi important que le débat sur les éoliennes, le nucléaire ou je ne sais pas quoi, parce que aucune marge de manœuvre technique ne résoudra notre problème tant que nous avons cette envie d'accumulation sans limite dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Merci beaucoup. Vous le voyez, c'est ce qui c'est, ce débat.
Alors, le débat commence.
C'est un débat intellectuel, quoi, au départ.
Pas que, parce que quand vous avez des gens qui, justement, parce que ça fait bien dans le groupe dans lequel ils sont, se mettent à manger différemment, ou bien se mettent à faire du vélo, ou bien se mettent à changer la façon dont ils passent leurs vacances, etc., il y a des émergences. Mmh. Alors, ces émergences, c'est clair qu'elles sont aujourd'hui plutôt chez les privilégiés, plutôt chez des gens qui sont jeunes ou qui le sont restés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, en fait, quelque part, ils ont toujours eu envie de faire ça. Puis maintenant, c'est devenu les chakras s'ouvrent. C'est-à-dire, c'est devenu mieux considéré de le faire. Mais ça commence à arriver par petites tâches. Au début, de toute façon, l'émergence de ce genre de trucs, c'est nécessairement pas structuré. C'est un peu de la génération spontanée ici et là, quoi. Voilà. Mais okay. on commence à voir des trucs qui ressemblent à ça, oui.
Merci. Madame Sempé, une question.
Alors, merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je vais oser poser mes questions, parce que là, on avait atteint un sommet très intéressant avec ce débat de société et tout ce qui nous attend. Mais je vais quand même poser mes deux questions. D'abord, vous remercier, Monsieur le Professeur, pour votre intervention. Alors, ma première question, vous y avez répondu, c'est avoir votre vision sur prix régulé de l'énergie ou... Vous y avez répondu, puisque vous nous avez dit que pour vous, prix du marché égale volatilité des prix. Donc, j'ai eu votre positionnement. Donc, vous avez répondu...
Je peux faire ma première question. Je ferai un petit complément.
D'accord. Et je vous donne ma deuxième question. Quelle est votre analyse, la vôtre, je dis bien la vôtre, j'insiste, votre analyse sur les coûts démentiels, que moi je considère comme démentiels, de Hinkley Point. Merci.
Alors, sur la partie prix régulé versus prix de marché, donc je vous ai dit, moi je suis pour un système de prix largement régulé. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est ce vers quoi on se dirige de toute façon, dans les faits, puisque vous avez de plus en plus de contrats de long terme qui sont passés, entre les producteurs et les consommateurs. Oui, vous en avez de...
Les entreprises surtout.
Alors c'est surtout des entreprises, bien sûr. Parce que je ne dis pas que c'est très significatif, je dis qu'il y en a de plus en plus. Ce qui montre bien qu'en ce qui concerne les entreprises, la volatilité des prix est quelque chose qui ne les arrange pas. Et c'est particulièrement vrai pour l'industrie de base. L'industrie de base qui est assez électro-intensive, qu'il s'agisse de la chimie, de l'acierie ou de, dans une moindre mesure, de la cimenterie. Ça, c'est des fonderies d'aluminium, j'en parle pas. Donc ça, c'est des industries pour un fondeur d'aluminium primaire. C'est avant tout un contrat d'achat d'électricité. Hein, donc les gens, ils peuvent pas se permettre d'avoir un prix du mégawattheure qui varie d'un facteur 3 tous les 4 matins. Quoi. Donc vous avez déjà un certain nombre d'industriels qui réclament des prix qui sont régulés. Et à mon avis, et en ce qui concerne les particuliers, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour se grouper face aux producteurs qui ne le font pas, parce que sinon ils le feraient aussi, enfin je pense qu'une bonne partie d'entre eux le feraient. Donc pour moi, c'est de toute façon quelque chose qui correspond par ailleurs à un souhait d'une large partie des consommateurs d'avoir des prix qui soient pas trop volatiles. Ça paraît à peu près évident. Et dans la mesure où les coûts de production le seront de moins en moins avec un système décarboné, voilà. Les coûts démentiels d'Hinkley Point, je vous ai répondu tout à l'heure, c'est les 10% de coût du capital de l'opération. Le capital n'avait pas coûté. Donc en fait, le problème d'Hinkley Point, il est double. C'est d'une part, alors le problème d'Hinkley Point, il est double. Sur les délais de construction, c'est le fait que c'est de nouveau une tête de série, parce que EDF a de nouveau dû faire tout un tas de trucs qu'ils n'avaient pas fait ailleurs pour adapter le réacteur aux caractéristiques locales. Et donc, c'est pas comme s'ils refaisaient le même qu'à Olkiluoto ou à Flamanville ou à Taishan. C'est encore indifférent, c'est une espèce de tête de série. Donc ça, c'est une première raison qui fait que le coût augmente à cause de l'allongement des délais de construction. Mais en fait, la vraie raison pour laquelle l'allongement des délais de construction augmente fortement les coûts, c'est à cause des intérêts intercalaires et donc à cause du coût du capital. Si ça avait été une opération financée par l'État britannique en direct, empruntant à l'époque, puisque les taux étaient nuls, à zéro, eh bien, le coût du mégawattheure à Hinkley Point vaudrait entre 2 et 3 fois moins cher. Voilà.
Merci.
Maintenant, en écho à ce que j'ai dit au début de cette intervention, même à 3 fois le prix initialement programmé, je rappelle qu'au regard des services qu'elle rend dans le monde moderne, l'électricité ne vaut rien.
Monsieur le rapporteur.
Oui, une dernière question pour moi en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au carbone, au prix du carbone et qu'est-ce qui est au marché du carbone, qu'est-ce que... Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter ou...
Alors, le marché du carbone, en fait, initialement, comme vous le savez, n'est pas un marché, c'est un système de tickets de rationnement négociables. Le système des quotas, comme son nom l'indique, est un système de gestion par les quantités. Et un quota, en pratique, c'est un ticket de rationnement. Donc, l'idée initiale, c'était de dire, pour tous les sites qui émettent beaucoup, un peu plus de 10 000 en Europe, on va leur rationner au fil du temps les émissions qui sont mises à leur disposition. Donc on va dire l'ensemble de ces sites peut émettre tant par période de 3 ans, par période de 4 ans, par période de 5 ans. Et puis ce temps diminue au fil des années. Et si vous êtes un site qui avait reçu 1 million de tonnes de CO2 à émettre et que vos émissions dans l'année, en fait, vous vous dites « je vais m'en sortir avec 900 000 », eh bien, les 100 000 supplémentaires, vous avez le droit de le vendre à tel autre site qui, lui, en avait reçu 600 000 et en aurait eu besoin de 700. Voilà. Donc, en fait, le marché, il était là pour permettre des ajustements entre sites assujettis, parce que c'était au niveau des sites et pas des entreprises que ça se jouait, cette histoire, enfin, que ça se joue toujours, une flexibilité qui permet, en gros, d'avoir un coût marginal de réduction qui ne soit pas trop élevé. C'était ça l'idée. Alors là-dessus, le système a été un peu complexifié. Les industriels qui disent « mais nous, on est en concurrence avec l'acier chinois, le ciment turc et je ne sais pas quoi, on voudrait des quotas gratuits parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. » Donc, ils ont eu des quotas gratuits. On a mis dedans l'aviation, on met maintenant dedans un certain nombre de produits importés, parce qu'en fait ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, en fait c'est l'inclusion dans le système de quotas des importateurs de ces produits, et les importateurs vont devoir acheter des quotas, enfin se procurer des quotas, au prorata du carbone contenu dans les produits qu'ils importent. C'est ça le principe. Alors limité par les quantités est normalement quelque chose qui vous garantit le résultat sur le volume total d'émissions, puisque vous dites vous n'aurez pas le droit d'émettre plus de temps. Donc si les gens respectent leurs obligations, bah, effectivement, on n'émet pas plus de temps. Donc ça vous garantit le résultat. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que ça ne vous permet pas de prévoir les prix, parce que les quantités ne sont pas prédictives des prix. Donc ce n'est pas parce que vous savez que dans 10 ans, vous aurez X milliers, enfin X centaines de milliers de tonnes à émettre, que vous savez combien vaudra la tonne. Et donc vous ne savez pas, ça ne vous dit pas si vous avez intérêt à investir pour la tonne marginale ou à l'acheter sur le marché. Et tant que l'industriel ne sait pas où est son intérêt, en général, il ne se dit pas « bon, bah, je prends mes paris, je fais l'un des deux », en général, il ne fait rien. Il n'investit pas. En général, il attend. Donc, le complément qu'il aurait été utile de mettre à ce marché, pour lequel on a milité, on avait même proposé un amendement qui avait été porté à l'Europe à l'époque où c'était Ségolène Royal qui était ministre de l'Environnement, mais ses collègues lui avaient gentiment dit non merci, et je ne sais pas si c'est le fond de la proposition ou la méthode de portage qui était en cause. Eh bien, l'idée était de dire les quotas, en fait, ils sont actuellement mis aux enchères, hors quotas gratuits, hein, ils sont mis aux enchères tous les ans. On va les mettre aux enchères, enfin pas tous les ans, mais par période, on va les mettre aux enchères avec un prix minimum, un prix de réserve. Ce prix de réserve va croître au cours du temps. Donc en fait, vous êtes assuré, vous industriel, qu'une année donnée, vous ne vous pourrez pas vous procurer de quotas à moins de temps. Et ça, du coup, ça vous permet de quantifier les investissements qui sont rentables d'entrée de jeu. Voilà. Et on avait également proposé que, comme corollaire, l'amende pour excès d'émissions, c'est-à-dire pour quotas non restitués, hein, soit également croissante au cours du temps. Et comme ça, vous étiez sûr que le prix de marché du quota à tout instant, il serait n'importe où entre le prix de vente aux enchères, enfin le prix de réserve plus exactement de la vente aux enchères, et l'amende. Donc ça vous donnait un couloir qui limitait la volatilité. Donc vous gardiez le système du marché, mais vous rendiez le prix de la peine, le prix de l'effort, si vous n'investissez pas, prévisible. Et donc, ça permettait aux industriels de faire leur calcul de retour sur investissement. Voilà, on avait proposé cet amendement, il n'a pas été mis en œuvre. Je persiste à penser que ça serait un bon système, une bonne manière de le mettre en place. Enfin, un bon complément, pardon, à mettre en place.
Le niveau du carbone, pour vous, est un moyen de pilotage qui reste fondamental ou...
Alors, pour les industriels, oui. Pour les particuliers, j'en suis revenu. Donc, à une époque, je pensais que la taxe carbone pour les particuliers, c'était pas l'alpha et l'oméga, mais enfin que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Aujourd'hui, j'en suis revenu parce qu'en fait, la taxe carbone est un instrument qui est lent. Je vais être un peu plus précis. Auprès des industriels, l'avantage de l'industriel, c'est que si vous lui dites que vous allez changer les règles du jeu sur les prix de quelque chose, il embauche une armée de consultants et leur tableur Excel, il fait des calculs dans tous les sens et il dit « Ah, à tel prix du carbone, j'ai intérêt à faire tel investissement. » Qui peut éventuellement être de dire « Je ferme l'usine et je vais l'installer aux États-Unis. » Mais au moins, il sait. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut qu'il fasse, de mon point de vue, mais au moins il sait. Il sait, pardon. Donc la taxe carbone dans le domaine industriel peut être un outil très puissant. Et du reste, les Anglais se sont débarrassés du charbon dans la production électrique en l'espace de très peu de temps. Ils ont décarboné leur électricité beaucoup plus vite que les Allemands. Hein. Les Anglais, il faut le savoir, on parle toujours de l'Allemagne, mais en fait les Anglais ont été plus efficaces. Et l'un des instruments qu'ils ont utilisé, c'est... Alors ils sont passés du charbon au gaz hein, pour décarboner rapidement, mais quand même. Ça a été la taxe carbone sur la production électrique. Donc là, vous vous adressez à des industriels, ils ont les moyens d'embaucher des consultants, etc. Le particulier n'a pas les moyens d'embaucher des consultants, il a une capacité d'anticipation qui est beaucoup plus faible, ce qui veut dire que si vous voulez laisser au particulier le temps de faire essai-erreur jusqu'au moment où il trouve la bonne solution, il faut que vous ayez une taxe qui monte très lentement. Or, si vous avez une taxe qui monte très lentement, c'est un, antinomique avec le fait de résoudre rapidement le problème, et deux, ça vient créer un autre problème que vous connaissez bien ici, c'est qu'avec le principe de non-affectation des recettes budgétaires, vous contribuez à créer sur une assiette large une recette significative et à ce moment, vous n'avez aucune envie de vous en débarrasser. Donc, en fait, la taxe carbone, elle a un élément majeur, sans quoi c'est un piège pour l'État, c'est que ça, le produit de la taxe ne doit être affecté qu'à rien d'autre qu'à décarboner l'économie, de telle sorte que le jour où il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus la taxe, mais il n'y a plus les besoins. Si vous l'affectez au budget général, vous êtes coincé.
Ouais.
Voilà. Okay. Pour les particuliers, maintenant, je suis beaucoup plus partisan de la réglementation. Alors la réglementation, c'est par exemple, à telle date, il est interdit de remplacer une chaudière à fioul par une autre chaudière à fioul. À telle date, il est interdit de louer un appartement si son étiquette énergétique est F ou G. À telle date, il sera interdit en Europe de vendre des voitures qui consomment toujours du pétrole, etc. Je pense que ces outils-là sont beaucoup plus structurants pour orienter les comportements. Et ils ont l'avantage, par ailleurs, de permettre à l'économie de se préparer. Si vous dites, à telle date, on n'installera plus une chaudière à gaz, et à telle date, toute chaudière à gaz qui tombe en panne est remplacée par une pompe à chaleur, le particulier sait à quelle sauce il va être mangé, mais les industriels en face savent quelle offre ils doivent préparer. Et j'en veux pour preuve qu'après avoir un peu traîné des pieds, les constructeurs automobiles européens disent maintenant, écoutez, ne nous changez pas encore les règles du jeu, on est parti pour l'électrique, laissez-nous faire de l'électrique.
Ok. Juste un dernier point, j'en profite. Ça fait un moment que je m'interroge sur ce que vous avez dit à plusieurs reprises. L'électricité ne vaut rien. Alors, ok, j'entends, mais tout le monde de la paix.
Oui.
Et j'entends derrière ce terme, j'essaie de le comprendre, je ne suis pas sûr de bien comprendre, la notion de valeur finalement sociétale incommensurable finalement de l'électricité. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, absolument.
Et est-ce qu'on peut faire un lien alors avec ça et la notion de bien commun?
Oui. Oui.
Vous considérez que...
Bah, c'est un bien commun, c'est exactement le sens de la réponse que j'ai faite en disant je suis pour des prix encadrés, oui, bien sûr. Et je suis pour des infrastructures décarbonées qui soient construites avec les taux de financement auxquels l'État a accès. Oui, c'est une autre manière de dire que c'est un bien commun et donc on peut considérer que ça fait partie des compétences régaliennes, oui.
D'accord, ok, j'y vois plus clair. Merci, monsieur Jankovici, s'il n'y a pas d'autres questions.
Ah, juste sur la partie « ça ne vaut rien », je fais assez souvent en conférence l'expérience suivante, qui est de demander aux gens qui sont dans la salle qui ici connaît le montant, enfin, qui ici est locataire. Il y a un certain nombre de gens qui lèvent la main.
Locataire.
Locataire, oui. Qui parmi les locataires ne connaît pas le montant de son loyer? Voilà, vous n'avez pas une main qui se lève. Et après, je demande qui parmi les locataires ne connaît pas le montant de sa facture d'électricité? Là, je peux vous dire que vous avez un certain nombre de mains qui se lèvent. Bon, c'est bien la preuve que ça ne vaut pas très cher. Sinon, vous le connaîtriez. Et je peux faire exactement la même expérience avec des chefs d'entreprise. Oui, oui. Alors, vous avez une fraction de la population pour qui ce n'est pas le cas, mais une fraction. Une fraction.
Oui, il faut penser à elle aussi.
Pardon ?
Mais il faut penser à elle.
Je ne dis pas que je pense pas à elle.
Oui, oui.
Bien sûr. Et je peux vous faire une autre expérience qui est que quand je m'adresse à des chefs d'entreprise et que je leur demande qui ici ne connaît pas le montant de sa masse salariale, je peux vous dire que je n'ai pas une main qui se lève. Si je leur demande qui ici ne connaît pas le montant de sa facture d'électricité, à part les quelques électro-intensifs qu'il peut y avoir dans la salle, tous les autres lèvent la main. Enfin, vous devrez lever la main. Personne ne la connaît. Moi, le premier, hein, je ne sais pas du tout combien vaut la facture d'électricité de carbone 4. Incapable de vous le dire. La masse salariale de carbone 4, je la connais, oui. À peu près. À peu près. Mais alors, je sais à peu près combien c'est par facture. Je ne saurais pas vous dire quelle est la périodicité des factures. Je ne sais plus si c'est 2, 3 ou 4 mois. C'est 2 mois, voilà, oui. Donc, je connais le montant de la facture, mais je ne connais pas sa périodicité. C'est bien la preuve que dans les charges, c'est globalement pas des charges significatives.
Bon.
Alors que moi, j'ai la chance d'être propriétaire. Je peux vous dire que les impôts fonciers, je les connais. Enfin, je veux dire, donc j'insiste sur le fait que par rapport au service que ça rend, encore une fois, ça ne vaut rien. Même si ce n'est pas la perception qu'on en a.
Ok. Merci. Merci beaucoup.
Merci. 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 Merci.